vous parler un peu des petites dernières nouvelles qui vont entre guillemets tomber ou qui sont tombées dans le mois dernier, qui vont tomber ce mois-ci. La petite actualité, c'est pas les actus astro mondiales, là c'est les actus un peu plus locales, même si le local prime sur le mondial parce que la SAN a un rayonnement mondial, mais
La géométrie locale s'étend à l'infini, tout le monde sait ça, n'est-ce
tout
pas
à fait.
L'espace-temps.
Donc les deux événements principaux du mois de janvier, ce sont le ciel de Nantes.
La deuxième soirée ciel de Nantes qui aura lieu samedi 19 janvier.
Alors prenez vos agendas, samedi 19 janvier.
Au parc du Grand Blotreau.
Donc là vous commencez à dormir un peu avant, parce que le samedi 19 janvier vous avez les ciels de Nantes, c'est une observation publique gratuite. Au parc du Grand Blotreau.
Voilà, qui commencera
à
20h. Dès 20h.
Qui commence dès 20h et qui finit dès que ça peut finir. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, si on a un ciel super dégagé, ça finit quand le soleil se lève. Et encore. À l'aube. Et puis, autrement, si le ciel est beaucoup plus ou moins couvert, on s'arrêtera quand est-ce qu'on peut. Autrement, on s'arrêtera quand les gens seront fatigués ou iront trop froid.
Alors, comme on n'aura pas l'occasion de vous en reparler d'ici le 19 janvier, notez bien cette date. Samedi 19 janvier, 20h, au parc du Grand Blotreau.
À partir de 20h, c'est-à-dire que
à partir de 20h, vous venez quand vous voulez.
Si vous allez au cinéma, en sortant 22h30, vous pouvez passer au
ciel. Il y a un programme très très lâche, il y a plusieurs télescopes, vous pouvez mettre l'œil à celui qui vous plaît, lunettes et télescopes, les petits grossissements, les forts grossissements. Vous promenez sur la Lune, tout ça est centré un petit peu sur le quartier de Lune, avec ce qui va autour, la découverte des constellations, les planètes, Jupiter, Saturne, Mars. On verra les anneaux de Saturne, on verra plein de choses. On apprendra plein de choses aussi.
Donc, comme d'habitude, il n'y a pas d'événement astronomique au sens observationnel du terme, même si Pierre, tout à l'heure, va nous en parler de ce qui va arriver dans le mois de janvier. Mais c'est vrai que on va essayer d'en organiser tous les 2-3 mois. Donc, le dernier, c'était au mois d'octobre ou novembre, je ne sais même plus d'ailleurs. Au novembre.
C'était le 24 novembre.
Au mois de novembre.
C'était le jour de mon anniversaire.
Oui, c'est vrai. Tu as même soufflé les bougies.
Bien là, tout à fait.
Donc. Là, on va essayer d'en organiser tous les 2-3 mois pour en fait apprendre le ciel et puis découvrir un peu tout ce qui arrive dans l'année, sans parler des petits événements qui vont être ponctués. Comme là, on va encore voir quelques planètes, donc ça va être assez joli, je pense.
Ouais, j'ai soufflé plus de 120 bougies parce qu'on met des bougies, il faut savoir. Hein. C'est très joli, c'est un air de teuf. Quand on arrive sur le site, c'est très très beau avec ces petites bougies, les plots lumineux, enfin, plein de petites surprises, c'est adorable. Donc, faut vraiment venir parce que c'est un moment très très sympa, très populaire. Hein. On se prend pas la tête dans les ciels de Nantes. C'est vraiment pour tout le monde. On découvre le ciel avec les astronomes de la Société d'Astronomie qui sont là. Il y en a une trentaine qui sont là pour vous guider dans le ciel, pour vous apprendre des choses, pour vous montrer comment on regarde. Et on peut venir en famille, on peut venir avec des enfants. Enfin, c'est vraiment très très bien.
Bah en fait, la première édition n'a pas été un échec parce qu'on a eu quand même une cinquantaine de personnes.
Ah oui,
Il a fait presque mauvais partout. Donc, on a eu une trouée de nuages pendant presque près de deux heures.
On a eu une centaine de personnes en tout.
Ouais. C'est vrai qu'après, ça s'est arrêté rapidement, malheureusement, à cause du temps. Donc là, on espère avoir beau. Par contre, si vous venez, mais prenez des affaires chaudes.
Beaucoup plus
mais chaud. Alors, chaude, si vous partez au ski, vous sortez déjà vos affaires, vous prenez les chaussures de ski, c'est le pire, c'est les pieds.
Et parce qu'on ne s'habille pas comme pour descendre le chien. Voilà. Il faut bien savoir que quand on est dehors une heure ou deux dans le froid, c'est vraiment, ce sont des conditions. Même en été, il fait froid, je vais vous dire. Donc en fait, il faut vraiment se couvrir trois fois plus que ce qu'on penserait pour descendre
Si vous venez en voiture, emmenez du stock de chaussons, de chaussures, etc.
Et des gants.
Et des gants pour les mains. Mais les gants, au pire, on les met dans les poches, les mains. Mais le plus affreux, c'est les pieds. Donc couvrez-vous les pieds, allez acheter des chaussures. Ouais, ça sert pour l'astronomie.
On va prendre son pied, donc il faut,
Se
le couvrir.
Il faut se le couvrir pour pouvoir se le prendre. Et puis autrement, la semaine de l'astronomie, on va pas parler beaucoup. Trop non plus, mais bon, ça commence juste après.
On va vous en parler tout à l'heure,
voilà.
D'ailleurs.
On va vous en parler tout à l'heure plus longuement. Donc là, la semaine de l'astronomie, ça va être du lundi 21 au vendredi 25. Donc là, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait dormir avant, parce que là, vous avez le samedi une observation du ciel, donc il va se finir le dimanche matin. Vous avez le lundi au vendredi 5 conférences.
Passionnantes.
Et après, on fait une petite pause au niveau astronomique, au niveau de la SAN, et on reprend dès le 1er mars, avec une nouvelle conférence. Donc c'est vrai que là, vous avez un mois de janvier assez chargé, mais c'est notre marathon et c'est suivi, puisque à chaque fois, la salle est pleine.
Oui, il faut se méfier, la salle est assez petite, elle fait que 120 places par là, donc elle est très vite pleine. Hein, faut venir un peu en avance et puis, ma foi, on fait ce qu'on veut. On veut rester au muséum parce que c'est un très joli lieu. Malheureusement, peut-être trop petit pour cette manifestation maintenant, mais enfin, ils sont tellement gentils et on est en partenariat.
On y est bien.
Donc, on y est bien, c'est chaud. Voilà, c'est le jeu. Hein. Et puis, si vous loupez une conférence, vous verrez la suivante.
Oui, de toute manière, c'est ça le principe. Voilà. Si vous êtes abonné, pensez à venir avant 29h05, oui. Puisque autrement, les places sont vendues.
Et on est obligé, pour des raisons que je viens d'ailleurs de vous évoquer, on ne peut pas garder les places indéfiniment quand les gens font la queue dehors. Donc, on invite les abonnés à venir avant 9h05, parce qu'à partir de 9h05, on vendra leurs places si on en a besoin. Quoi. On n'a pas de garantie qu'ils viendront, donc il faut qu'on le sache, il faut venir avant.
Merci Daniel. Tout de suite, on parlait un peu du ciel, des ciels de Nantes. Donc, ça va être au tour de Pierre Simoneau qui va vous présenter ce qu'on va voir le 19 janvier. Et puis, bien sûr, ce qu'on va voir à partir de ce soir. Ce soir à Nantes, c'est un peu mal parti. Mais jusqu'à fin janvier, c'est le ciel du mois. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il y a à voir ce mois-ci dans le ciel? On va parler nocturne, puisque diurne, il y a soleil, on pouvait le regarder tout le temps avec des lunettes de protection spéciales.
Il y a à voir dans le ciel des nuages, voilà. Il y a à voir plein de choses, mais qu'est-ce qu'on peut voir au-delà?
Cette nouvelle année ne démarre pas mal, puisque on va débuter par une opposition de Jupiter, qui sera observable pratiquement toute la nuit.
On rappelle ce que c'est une opposition?
Alors, l'opposition de Jupiter, c'est donc un alignement de la planète, du Soleil et de la Terre.
Le Soleil, une droite. Hein.
Hein, c'est une ligne droite. Alors, vous en profitez, et profitez-en bien. Si, avec un appareil de son de bonne taille, tout au moins, vous aurez la possibilité, du fait qu'on est en opposition, de voir une douzaine de bandes sur Jupiter, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais enfin, je pense qu'il faudra quand même du bon matériel.
Des bandes nuageuses.
Hein, des bandes nuageuses, bien entendu.
Vous en aurez le 19 janvier.
En ce qui concerne la tache rouge, elle n'est pas toujours très facile à repérer, mais du fait toujours de l'opposition, Jupiter est quand même au plus proche de nous, et avec un 115, vous pourrez détecter la tache rouge et suivre son apparition sur la face et sa disparition, puisque Jupiter tourne à peu près une dizaine d'heures et on doit, dans une nuit, voir l'apparition. Si ça tombe bien, on doit pouvoir voir et l'apparition de la tache et sa disparition.
Jupiter, donc c'est elle est du soir, ce mois-ci.
Toutes
les planètes sont du soir, ce soir.
C'est toute la nuit.
Oui, elle est debout quand on arrive. Mais un 115, juste précise, c'est pas le calibre d'un revolver. Hein.
Non,
c'est un télescope qui a le diamètre de 115
mm. Ni un canon. Alors, autrement, pour les satellites de Jupiter, alors là, vous aurez un beau balai de satellites. Je vous rappelle que Io fait une révolution en une journée 76, qu'Europe parcourt son orbite en 3 jours 6.
Et en euros, ça fait combien?
Ça, mais j'ai pas fait la traduction encore, j'ai pas la correspondance.
On avait dit qu'on parlait pas d'euros.
Ah oui, c'est vrai.
Ganymède met un peu plus d'une semaine, et quant à Callisto, il lui faut 16,7 jours pour faire un tour.
Tu les as cités dans l'ordre d'éloignement à Jupiter.
Je les ai cités dans l'ordre de l'éloignement. Alors le résultat, c'est que tous les soirs, vous aurez la possibilité de vous les retrouver tous à pas la même place, bien entendu. Et puis si l'un d'eux manque, c'est qu'il est ou derrière Jupiter ou dans son ombre. Avec un peu de patience, vous pourrez le voir réapparaître et en profiter pleinement. Ce qui donc peut être intéressant, donc dans cette ronde autour de la planète, les satellites ne cesseront de vous amuser tout au long du mois par leur jeu d'ombre et de lumière.
Un vrai balai.
Un vrai balai. Ouais.
Les fameux satellites galiléens qui ont servi d'ailleurs à faire des tables, parce que c'est des planètes périodiques, donc on peut s'en servir pour marquer le temps.
Entre autres.
Donc alors, là, c'était Jupiter.
Quelques points de repère par rapport à justement à ce balai, quelques points de repère. Quelques points de repère. Bon, les éclipses des satellites, le 7 janvier.
C'est foutu.
Il fait
couvert.
Oui, c'est couvert. Oui, ce soir, c'est foutu. Donc, on ne va pas en parler.
Voilà.
Le 15, la sortie de Io à 19h, sortie de l'ombre de Io. Le 20, immersion de Io à 23h41 et sortie à 2h26.
Immersion, c'est quand il repasse derrière.
Voilà. Ça, c'est génial parce qu'on peut le voir dans la même nuit.
Voilà.
Ah oui, c'est bien.
Ensuite, le passage du satellite et son ombre. Alors, donc, le 7, alors je ne vais pas en parler, ça tombe mal aussi. Le 16, Europe, début du passage à 20h56 et début de l'ombre, 21h44. Sortie du satellite, 23h44, puis de l'ombre, 0h33. Tous ces temps sont donnés, bien sûr, en temps universel. Je vous rappelle qu'il faut seulement ajouter une heure en hiver pour avoir le temps officiel. Le 30, Callisto, début de l'ombre à 23h et sortie à 2h03.
On croirait la météo.
Toujours Jupiter, on va en terminer. Le 23 janvier, rencontre avec la Lune vers 18h.
Jupiter a rendez-vous avec la Lune.
Et quelques minutes d'arc séparant les deux astres.
Okay. Rapprochement, c'est bien.
Alors ensuite, les autres planètes visibles, Mercure. Mais Mercure ne monte pas très haut, donc il ne sera pas très facile à repérer. Le 11 janvier, elle sera sa plus longue élongation, et ce vers 17h. Vous pourrez, de toute façon, si vous ne pouvez pas la repérer le 11, au moment de l'élongation, vous pouvez le repérer le 14, puis elle sera en conjonction avec la Lune. Mars passe du Verseau dans le Poisson, et se couche vers 23h, donc c'est dès le début de la nuit.
Il faut la choper vite.
Mais Mars va de plus en plus en s'éloignant de nous, donc ça ne sera plus qu'une petite bille brillante à l'horizon, enfin pas à l'horizon, dans le ciel. Saturne, alors Saturne par contre a un diamètre apparent important de 19 minutes, donc c'est une belle proie pour tous. Vénus, Uranus, Neptune et Pluton, ma foi, ne seront pas parmi nous puisqu'ils seront invisibles. Alors je vous souhaite à tous donc de bonnes observations, un beau ciel meilleur que ce soir et donc un bon mois. À bientôt.
Merci Pierre. En plus, il a fait ça dans les temps, tout parfait. Il est parfait.
Thierry jubile.
C'est bien. Tout de suite, nous allons arrêter de regarder vers le ciel. On va commencer à réfléchir un peu plus. Si je dis pas que quand on regarde vers le ciel, on réfléchit pas, mais là, c'est vrai que c'est plus de la théorie qu'on va aborder. Donc, n'oubliez pas le ciel du mois, Jupiter et Saturne à regarder le soir. C'est déjà pas mal.
Avec des jumelles, vous verrez les satellites de Jupiter. Hein.
Tout à fait.
Vous verrez pas les phénomènes. Ce qu'a parlé Michel, Pierre a parlé de phénomènes qui sont visibles aux jumelles. Mais alors,
on verra qu'il en manquera un.
Pour les savourer, il faut déjà un petit instrument.
On doit pouvoir voir les tâches, l'ombre des
satellites. Voilà, tu es optimiste, mais bon.
Ça dépend des jumelles. Fabrice Dubreuil a testé des jumelles à 5000 francs pièce.
Mais Fabrice Dubreuil peut se permettre de tester des jumelles.
Et apparemment,
alors il est copain avec notre partenaire.
Notre partenaire qui nous a fait tester et c'est de très bonne qualité.
Ah bah écoutez, on va vous dire le nom. Non, si vous allez sur le site de la SAN, vous verrez le nom de notre partenaire. Donc on n'a pas besoin de le dire à l'antenne.
Voilà.
Parce que c'est pas la déontologie de Alternante, c'est ça?
Non, tout à fait. Tout de suite, nous allons aborder la première grosse partie de l'émission. Nous allons vous parler de la conférence qui a été effectuée le 24 novembre.
Non, décembre. Le 14 décembre.
Qu'est-ce qu'il y avait le 24 novembre?
Il y avait le ciel du mois.
Le ciel de Nantes.
Ah, c'est celui de Nantes, le 24 novembre.
Nantes,
d'accord.
Celui du mois, qu'est-ce que je raconte?
Moi aussi. On est déjà en 2002. Mes neurones sont passés à l'euro. Moi, j'en ai, ils sont divisés par 6,55.
T'es neurones.
Ouais. Et il en faut deux pour faire une connexion, donc ça fait au moins.
Oui, remarque, t'en as au moins deux.
Voilà. Merci, Daniel. Je note. Toi, tu vas pas parler longtemps dans l'émission. Je demandais la technique à Claudie de te couper le micro.
Et comment s'appelle un Thierry qui donne la main à un autre Thierry? Ça s'appelle une synapse.
Ouais, c'est cela, ouais. Bon, à force de dire tes cochonneries, t'es en train de prendre du temps sur ton temps de parole.
Ah bah, c'est bien fait pour moi, donc je commence.
Non, t'attends le jingle.
On ne bouge pas pendant le jingle.
Nous, on a le droit, on voit rien. À toi, Daniel, tu vas nous parler de la conférence de Christian Manique qui s'est effectué le 14 décembre, et non pas le 24 novembre, quand tu l'as si bêtement dit tout à l'heure à toi.
Et c'est pas Christian Magny, mais c'est Christian Magnan. Cela dit, donc Christian Magnan est un chercheur, un astrophysicien, qui travaille à l'université de Montpellier, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien son métier d'astrophysicien. Il est rattaché au Collège de France, il est spécialiste de physique stellaire, il a été chercheur à l'Institut d'astrophysique avant d'exercer à l'université de Montpellier. Alors, ce qui passionne Christian Magnan en tant que scientifique, ce qui devrait passionner tout scientifique d'ailleurs, c'est le rapport entre ce que la science, la représentation qu'elle fait du monde et cette réalité qui nous échappe toujours, hein, qui reste toujours fuyante et de laquelle on semble se rapprocher toujours. Alors c'est un vieux problème qui est, on va l'appeler un problème philosophique, mais loin de cette philosophie un peu moderne qui est totalement édulcorée, qui est très intellectuelle, en fait ça c'est une philosophie très utile, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut penser de la science? Alors juste un petit préambule avant de vous passer le CD, donc l'enregistrement de l'interview de Christian Magnan que j'ai réalisé avant cette conférence, qui était une conférence très un peu déroutante parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre un scientifique se prononcer sur le statut même de sa science, de son métier, quelle est la validité de ses énoncés. Alors un petit mot sur la science, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde a une idée, a sa petite idée de la science. Beaucoup de gens pensent que finalement ce qui est scientifique c'est une accumulation de résultats, de performances, c'est aller dans la Lune, c'est faire des médicaments, c'est faire des prouesses techniques. Ça n'est pas que ça. Bien sûr si on arrive à les faire c'est que quelque part on a quand même réussi notre coup de comprendre un petit peu mieux le monde qui nous entoure. Ça c'est un peu l'objectif de la science. Alors le problème de la science c'est qu'il faut lutter contre des choses très humaines qui s'appellent l'intuition, qui sont enracinées en nous, qui nous viennent de la nuit des temps, de l'évolution et contre lesquelles il faut lutter en permanence pour arriver à ce qu'on peut appeler l'objectivité scientifique. Alors une des premières tentatives d'arriver à cette objectivité, c'est l'expérimentation, l'expérience. Faire des dispositifs finalement pour interroger la nature et la réponse de cette nature, c'est oui ou non et c'est quelque part, on lui demande un peu de valider les modèles qu'on propose de cette réalité que l'on échafaude par l'esprit. Et là, il y a quand même quelque chose qu'il faut mettre au point. Une théorie n'a jamais été le résultat d'une accumulation de ce qui existe. Ce n'est pas non plus une intuition. On ne peut pas faire une théorie à partir de l'intuition de ce qu'on possède, de ce qu'on a déjà compris. Il faut carrément s'élever au-dessus. Il faut carrément faire un acte de création intellectuelle pure. Il faut proposer un modèle. Et alors c'est là qu'arrive ce formalisme, la géométrie par exemple est un formalisme. Alors tout le monde par exemple croit que la géométrie euclidienne est basée sur des axiomes, et une fois qu'on a les axiomes, on en fait les conséquences, et c'est comme un jeu, pas du tout. La géométrie euclidienne, comme le dira Einstein, comme il l'a très bien démontré, ça ressort, c'est le fondement même de notre approche du monde, la notion de nombre. Par exemple, la notion de distance entre deux points. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi deux parallèles se rencontrent pas? Pas parce que la géométrie le dit, mais parce que c'est l'expérience quotidienne. Au fond, la science, c'est une façon un petit peu plus raffinée de parler un peu comme au quotidien. Et cette géométrie, ces mathématiques deviennent l'instrument privilégié de la science parce qu'elles sont la façon de formaliser notre pensée et de la faire dépasser notre quotidien justement. Alors pour terminer, il y a une manière de faire de la théorie, c'est d'unifier les concepts, par exemple ce qu'a fait Newton en unifiant la chute des corps avec les mouvements les lois de Kepler. En se disant, après tout, si les planètes elles tournent comme ça, c'est parce qu'elles doivent s'attirer. Il s'appuyait en cela sur ce que Kepler lui-même déjà avait dit à propos de la, par exemple, c'est Kepler qui a dit que c'est la Lune qui attirait les mers et qui provoquait les marées. Donc c'est pas Newton qui a tout inventé. Néanmoins, il a unifié donc des concepts. Il en a fait une grande théorie, la gravitation universelle, qui unifiait ces choses-là. Alors, il y a aussi, on a fait un pas de plus, notamment avec la relativité, où là, les mathématiques ont vraiment montré tout ce qu'elles pouvaient faire. Et c'est là où on est confronté au problème de la réalité entre la représentation du réel et la réalité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette science, c'est malgré tout une représentation du réel. Il y a des pièges. Beaucoup de scientifiques d'ailleurs tombent dans le piège, soit parce que ça reste très difficile. La science, c'est quand même un exercice qui n'est pas évident, mais c'est aussi parce que quelquefois ils sont très naïfs, et c'est un des combats de Christian Magnan, comme de beaucoup de scientifiques, que de dénoncer, que de pourchasser ces choses trappes et ces fausses sciences et ces faux énoncés. Alors on va vous passer donc cette interview en plusieurs parties, comme d'habitude, hein. Donc vous allez entendre la première partie de l'interview de Christian Magnan réalisée le 14 décembre dernier.
Christian Magnan, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes astrophysicien, vous travaillez à l'Université de Montpellier. Et vous êtes rattaché au Collège de France et vous aviez été chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris avant de travailler à Montpellier.
Tout à fait, oui.
Alors, votre propos, évidemment, vous êtes astrophysicien, vous pourriez nous parler des étoiles, de tas de choses, mais votre propos de ce soir, c'est justement, vous êtes penché un petit peu sur la science, sur son mode de fonctionnement, sur ses propositions, qu'est-ce qu'il faut en penser, où en sont les limites, et vous êtes un peu le défenseur d'une science vivante, avec ses limites et ses imperfections, un petit peu contre une science théorique, un peu hégémoniste, qui prétend tout connaître et qui est maîtrisé le monde. Vous avez résumé vos pensées dans un livre qui s'appelle « La nature sans foi ni loi », qui est actuellement épuisé, mais vos réflexions, on peut les trouver intégralement sur votre site internet, qui est accessible d'ailleurs via le site de la SAN. Alors je vais faire un petit rappel avant de vous céder la parole. Rappelons que la science, c'est avant tout une méthode, et avant d'être une somme de résultats ou de connaissances, et ces résultats sont obtenus un petit peu contre l'intuition. L'homme a dû s'affranchir en fait de cette intuition, notamment par l'expérimentation, l'expérience, et en astronomie, en particulier par l'observation. Alors les propositions de la science ne sont pas toujours simples et intuitives. Et pour les rendre accessibles, très souvent, on a recours, non pas toujours les scientifiques, encore qu'ils soient coupables un peu eux aussi, mais surtout à travers les médias, on a un peu simplifié le discours scientifique, et en le simplifiant, souvent on l'a déformé, mais cette déformation, les scientifiques eux-mêmes en sont victimes. Alors vous dénoncez, vous, un certain nombre de dérives qui conduisent à des inexactitudes, pour ne pas dire à des erreurs dans les propositions scientifiques. Et ces erreurs sont un petit peu les mêmes que par le passé, où on pensait, parce qu'on ramène un peu, on a tendance à tout ramener à soi. Alors, parmi ces dérives que vous dénoncez, en fait, d'abord, pourquoi vous les dénoncez et quelles sont celles qui vous paraissent les plus criantes, si on peut dire ?
Oui, j'en parlerai à la conférence. Mon livre est né un petit peu, effectivement, d'une indignation, disons, de voir des scientifiques qui avaient une attitude, en effet, un peu dominatrice, qui pensaient qu'ils connaissaient tout le monde, qu'ils savaient tout, qu'ils pouvaient imposer leur point de vue. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup gêné. Et je crois que c'est en réaction contre ça que j'ai commencé à réfléchir. Alors bon, il y a beaucoup d'aspects effectivement du problème. Là, vous soulevez l'aspect d'inexactitude. Bah, le mieux, c'est de prendre un exemple tout de suite. On entend beaucoup parler en ce moment, enfin, on n'entend parler que de ça d'ailleurs, de la question de savoir si l'univers est fini ou infini. Or, tout physicien devrait savoir que l'infini n'existe pas. Donc l'infini n'existe pas, et ça me paraît quelque chose de grandiose, de dire qu'on peut parler de l'infini, alors que, bon...
Ce que vous voulez dire, c'est que l'infini est une notion mathématique, hein, avant d'être une notion physique. Parce que les mathématiques sont effectivement le support un peu du formalisme scientifique, mais il ne faut pas prendre non plus le support lui-même, la représentation du monde qui est fournie par les mathématiques, pour le monde lui-même. C'est un peu ce que vous dites.
Tout à fait, ça c'est tout à fait l'aspect du problème. L'infini en mathématiques, il n'y a absolument aucune difficulté. L'infini en mathématiques, ça ne me gêne pas et ça existe. On peut dire que c'est un concept qui est tout à fait utile, mais c'est un concept. Et en effet, dans ma réflexion, j'ai réfléchi, si vous voulez, à ce lien qu'il y a entre justement la théorie, disons, et le monde réel. C'est ça qui me passionne, qui me fascine un petit peu. Et toute ma réflexion tourne autour de ce thème. Alors on peut prendre un autre exemple justement relatif à l'univers, et qui justement rejoint un petit peu ce que vous rappeliez tout à l'heure. C'est que en ce moment, on pense... Il y a un principe cosmologique qui énonce que l'univers justement est parfait, est complètement symétrique, que la densité est homogène partout. Alors ça, en effet, ça rejoint exactement les erreurs que commettaient les anciens quand ils pensaient que tous les mouvements étaient circulaires. Et là, on est en train effectivement de à nouveau confondre deux domaines. Le domaine des mathématiques qui est le domaine de la perfection. Alors là, il n'y a absolument aucun problème. Effectivement, les mathématiques, c'est parfait. Un cercle, c'est quelque chose qui en effet est parfait. Mais ce qui me fascine, c'est que dès qu'on l'applique au monde réel, justement, on s'aperçoit que le monde réel n'est pas pareil que la théorie. Donc ça, c'est un exemple type en cosmologie, disons.
Oui, ça nous rappelle en fait que les mathématiques, bon, vous dites que le cercle par exemple est parfait, il est parfait dans une acception, lorsque la notion de parfait est une notion humaine. Le cercle en lui-même mathématiquement, qui est une figure géométrique, il n'est ni parfait ni imparfait, c'est peut-être aussi, les mathématiques sont souvent utilisées pour projeter sur les choses, le monde, les souhaits un peu humains, justement, de perfection, et finalement, la géométrie mathématique sont un peu le support idéal. Mais c'est vrai que c'est une dérive.
Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vous suis sur ce point-là. Justement, j'ai discuté avec un ami récemment de ce point-là. On s'est accroché sur le mot perfection, de savoir d'où venait, pourquoi j'employais ce mot de perfection. Je ne sais pas, quand même, le cercle représente un état de symétrie totale. Donc on peut dire que quand même c'est une figure parfaite par des critères, je dirais, objectifs. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais de toute façon, si, parce que c'est important, parce qu'à chaque moment, ça c'est le point de vue que je défends aussi, il faut que la science avance avec un souci de perfection. C'est-à-dire que quand on a rejeté les cercles, on a été obligé de trouver une autre perfection, entre guillemets, qui était celle de l'ellipse. L'ellipse, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est parfait, en ce sens que c'est déduisible d'une loi qui est simple, disons. Ça, c'est pas empirique, voilà.
Et en fait, là, ce que vous soulignez, vous avez raison, c'est cette volonté de perfection. En fait, ça peut s'appeler la cohérence. Ce qu'on cherche peut-être à travers les représentations successives qui collent plus ou moins à la réalité, dès qu'une théorie, par exemple, ne colle plus, vous le dites d'ailleurs quelque part dans votre livre, contrairement à ce qu'on croit, une simple observation ne peut pas rejeter une théorie, c'est simplement qu'il faut trouver une théorie plus large qui englobe la première. Et cette volonté de trouver quelque chose de plus large, de trouver nouvelle perfection en quelque sorte, c'est ce que vous dites, quand l'ellipse remplace le cercle, et ça c'est véritablement le moteur de la science, et c'est tout le paradoxe de la science, de vivre avec cette volonté de perfection, et quand on a trouvé, de ne pas prendre la chose qu'on a trouvée pour la réalité elle-même.
Oui, c'est tout à fait ça. Bien résumé. Et donc, c'est ce qui me fait dire, qui m'amène à penser que justement la cosmologie en ce moment est en plein dans une sorte d'impasse, parce que justement elle en est revenue presque à l'idée qu'on avait à l'époque, enfin que tout justement était sphérique. Et en ce moment, on ne parle que de modèles qui sont absolument homogènes et isotropes. Et c'est dans ce cadre-là, dans cette fausse question, dans cette fausse problématique, que justement surgit le problème soit fini, soit infini. Mais il faut dépasser évidemment ce point de vue, enfin à mon avis. Mais si on reste à ce point de vue, on est complètement bloqué. Tant qu'on parlera uniquement des modèles homogènes et isotropes, eh bien effectivement on sera coincé. Parce qu'on a quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Donc forcément on va découvrir des choses qui ne sont pas exactement pareilles que le modèle. Donc on va découvrir qu'effectivement le monde n'est pas ce qu'on pensait qu'il était. Mais ça, c'est pas étonnant. Enfin je veux dire qu'on devrait savoir ça depuis longtemps.
Alors, vous venez d'entendre la première partie de l'interview de Christian Magnan, réalisée le 14 décembre dernier, avant sa conférence, justement, sur où va la science tourne-t-elle en rond, et ça. Donc là, vous venez d'entendre quelques propos sur les excès de ce formalisme mathématique dans la science moderne, où on retrouve un petit peu les excès des anciens sur le côté parfait du cercle, qu'on voulait absolument que la nature obéisse à nos fantasmes mathématiques, bien que les mathématiques soient un outil extrêmement utile. Alors, on va sans plus tarder écouter la suite de cette interview de Christian Magnan, astrophysicien à l'Université de Montpellier. Alors, on a un autre problème, effectivement, parce que on peut décrire certains mondes ou certaines parties du réel avec une représentation relativement simple à trois dimensions, qui est notre univers un peu familier, macroscopique. Mais dès qu'on entre dans des mondes totalement différents, par exemple l'infiniment petit ou l'infiniment grand, cosmologique, là, on a recours effectivement à des notions, par exemple les quatre dimensions, l'univers, l'espace-temps, des choses qui sont finalement issues de l'observation et de l'expérience, et qu'on a reformulé d'une façon, en tout cas qui sont issus d'une volonté de reformuler d'une façon qui soit plus synthétique, soit plus cohérente, mais qui échappe à notre intuition. Et je pense que, d'une part, il ne faut pas que nous souhaitions avoir toujours des représentations faciles et intuitives. D'un autre côté, c'est pas parce qu'elles sont compliquées qu'elles sont forcément réelles non plus.
Oui, le meilleur exemple à ce propos, enfin, ce qui me paraît excessivement parlant, c'est la découverte par Einstein finalement de la relativité générale. Et la découverte en particulier de ce concept qui pour moi est la découverte, je dirais, de tous les temps, donc dont j'aimerais parler, qui est ce concept d'univers fini. Un univers qui est fini sans frontières, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça, c'est pas l'expérience qui peut le donner. C'est un concept qui est venu uniquement, on va dire, du cerveau humain. Donc c'est purement, purement théorique. Et ce qui est absolument génial, quoi, formidable, qui montre que là, la science, elle a bien marché, c'est que ce concept qui est purement abstrait, c'est vraiment le mot qui convient, est théorique, donc qui ne se rapporte pas du tout à l'expérience, qui ne se raccroche pas du tout en quoi que ce soit à l'expérience, parce que c'est complètement contre-intuitif et ça heurte le sens commun, et bien justement, c'est ce modèle qui était abstrait, infiniment abstrait, on va dire, qui était très abstrait, qui justement colle à la réalité. Alors ça, c'est justement ce qui me fascine dans ce mouvement de la science. Ce qui veut dire que la science ne fonctionne que par un aller-retour constant entre l'observation et la théorie. Il ne peut pas y avoir uniquement l'observation. Alors l'exemple que j'aime bien donner, je pense que, je commencerai peut-être par là d'ailleurs, c'est qu'on a mis quand même 2000 ans pour trouver que ce n'était pas le soleil qui se levait, mais que c'était la Terre qui s'abaissait. Et donc, ça, c'est typiquement contre ce qu'on voit. Et ça me paraît le meilleur exemple pour montrer que la science, l'astronomie en particulier, mais toute science, mais parlons de l'astronomie surtout, la science n'est pas une science purement observationnelle. Mais elle n'est évidemment pas non plus une science purement théorique. Ne me fasse pas dire ce que je ne veux pas dire.
Alors, juste avant d'arriver à la réflexion que ça me suscite, au propos, je dirais, pour compléter votre appréciation d'Einstein, c'est qu'aujourd'hui, Einstein a réconcilié le monde avec la vision ancienne, et on peut dire, si on veut, on peut dire que c'est le soleil qui se lève. Il n'y a aucun problème en relativité. En revanche, la démarche que vous soulignez d'Einstein, c'est-à-dire, finalement, c'est sorti du cerveau humain, ça a donné une belle théorie, et effectivement, le monde semble répondre à cette théorie. C'est typiquement la démarche du théoricien. C'est vrai que on commence pour bâtir une théorie, on ne peut pas la bâtir en rassemblant les observations et en rassemblant ce qui existe. On est obligé de les rassembler en une théorie nouvelle que l'on invente avant de la vérifier. Comme par exemple la gravitation, voilà.
Je pense qu'il faut absolument les deux. C'est-à-dire que là, c'est pas que j'ai exagéré, mais il faut prendre les deux éléments. C'est-à-dire que la théorie d'Einstein est sortie du cerveau, mais il a quand même fait des tas de choses et il a réfléchi aussi aux observations. Et à côté, bon, ça c'est un point absolument fondamental de l'histoire, c'est qu'en même moment, il y avait justement les observations de l'expansion de l'univers. Par Hubble qui a constaté justement que les galaxies s'éloignaient de la nôtre, de cette vitesse de fuite des galaxies. Et donc, du jour au lendemain, c'était extraordinaire qu'au même moment, on ait à la fois l'observation qui confirme la théorie et la théorie qui colle à l'observation. Mais ce qui est frappant, c'est que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Les observations seules, ça, je suis prêt à l'affirmer, ça ne sert à rien. Mais une théorie seule, attention, ça ne sert à rien non plus. Et si le sujet de la conférence, c'est un petit peu la science tourne en rond, la science, je pense, peut tourner en rond à l'heure actuelle, dans certains domaines. Bon, pour ne pas être... pour ne pas cacher les choses, je pense par exemple à la théorie des cordes, qui peut-être tourne en rond parce qu'elle est trop théorique et n'a justement aucun rapport avec le réel. Et donc une théorie qui n'a aucun rapport avec le réel, je pense que c'est une théorie qui est complètement perdue et qui est complètement stérile. Il faut absolument qu'elle revienne au réel. On n'a pas le droit de dire, d'inventer tout ce qu'on veut. Ça, c'est pas possible.
Oui, parce que l'un des principes pour bâtir une théorie, c'est tout de même de partir d'interrogations que nous avons à propos de l'observation ou des lois préexistantes. Ces lois, la démarche du scientifique, c'est toujours d'essayer de les réunir en une théorie unique. Hein, c'est un peu le principe unificateur, mais c'est aussi une volonté de simplification hein, sur la croyance qui est souvent vraie, que ce qui est simple est peut-être plus vrai que ce qui est compliqué. Donc pour cela, on a recours à une nouvelle théorie que l'on invente. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas l'inventer de toutes pièces pour ne rien expliquer, finalement. C'est ce que vous soulignez. Alors ça m'amène à ma question. Effectivement, peut-être qu'autrefois, on cherchait des théories pour expliquer les choses. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une dérive où le scientifique, étant donné qu'il n'est plus confronté à une obligation de décrire le réel, puisqu'on est dans des domaines tellement irréels, va-t-on dire, eh bien, est-ce que le scientifique n'a pas tendance à chercher des théories pour des théories ?
Mais il faut reconnaître qu'on est en ce moment dans une situation difficile. Moi, je n'ai pas la solution. C'est vrai que les problèmes qui se posent, contrairement justement à la façon dont ils se posaient, disons, au début du XXe siècle, nous avons peu d'éléments pour y répondre. Parce que s'il y a une question théorique qui se pose, c'est la question relative, on va dire la question théorique avec un grand L, c'est la question relative au Big Bang, au début de l'univers, et finalement au début de la physique, au début du temps, au début de l'espace. Et là, c'est vrai qu'on est confronté à un domaine où on n'a absolument aucune observation. Donc les théoriciens peuvent fantasmer sur tout ce qu'ils veulent, et il faut reconnaître qu'ils ont la partie difficile, parce que justement les observations manquent. Et c'est là qu'on peut réfléchir au fait aussi que l'univers, ben on n'en a qu'un, donc on ne peut pas expérimenter l'univers. Donc c'est un objet de science qui est un petit peu particulier, on va dire justement. Le propre de l'univers, c'est d'être particulier. Et c'est vrai qu'on ne voit pas comment on peut avoir justement dans ce domaine un champ expérimental. Alors ça, si j'avais la réponse, je vous la donnerais. Mais c'est vrai que c'est une difficulté propre à notre époque actuelle. Alors, je soutiens aussi une idée justement qui heurte beaucoup les gens, et énormément, mais j'assume un petit peu et j'essaye de la défendre. Je dis que justement, du côté de la physique, disons de la physique de base, de la physique de tous les jours, de la physique ordinaire, je prétends que nous connaissons tout, enfin, à condition de s'entendre sur le terme « connaître tout ». Ça veut dire que je pense que nous avons les théories voulues. Par exemple, on a découvert toutes les sources d'énergie. Il serait complètement illusoire de se dire qu'il y a d'autres sources d'énergie. Alors, le problème, la situation est d'autant plus frustrante. C'est-à-dire que on est, je pense, dans une situation où on connaît les lois de la physique, mais disons, on ne sait pas les appliquer, pour dire les choses brutalement. Et l'exemple qui me vient à l'esprit et que je développe un petit peu parce qu'il me tient à cœur, il tient au cœur de tout le monde d'ailleurs, c'est la question de la vie, très simplement. On peut penser quand même que tous les processus physiques, chimiques, pour fabriquer la vie, on les connaît de façon fondamentale. Mais personne ne sait à l'heure actuelle comment les appliquer. Donc ça, c'est d'ailleurs un terme que je développe souvent là, dans mes réflexions. C'est cette difficulté de passer à l'application. On sait faire la théorie, mais la science ne sait pas faire l'application.
Oui, mais ce que vous soulignez à propos de la vie, vous avez raison, parce que là, on touche réellement à la limitation d'une démarche qui serait du type analytique prospectif. C'est-à-dire, on voudrait expliquer le synthétique par l'élémentaire, le compliqué par le simple. On voudrait expliquer un ensemble par ces éléments dont on maîtriserait la logique à cette échelle. Mais en réalité, effectivement, la démarche qu'il faut peut-être avoir, c'est se poser des questions d'échelle. Il y a des échelles où la logique n'est pas la somme des logiques élémentaires. C'est notamment le cas de la vie.
Oui, je m'engagerai pas dans ce débat, parce que là, peut-être que vous avez pris la vie, disons, dans un sens un petit peu au-delà de ce que je le prends. Je veux parler essentiellement, si vous voulez, de l'astrophysique, pour rester dans un domaine que je connais. Et on va pas s'embrayer sur les sciences de la vie et les sciences humaines. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de phénomènes. Mais par exemple, j'en prends un autre qui, justement, lui, est purement physique. On ne sait pas comment se forment les planètes, on ne sait pas comment se forme la Terre, on ne sait pas comment l'eau est arrivée sur Terre. Je veux dire que voilà, tout un ensemble de problèmes dont nous ne connaissons pas la solution. Mais on peut penser quand même qu'il n'y a pas de miracle pour faire ça. C'est des processus, c'est de la mécanique, c'est de la chimie, c'est de la physique. Je veux dire que les lois de Newton ne sont pas violées, les lois de la mécanique sont respectées. Tout est respecté scrupuleusement. Donc si vous voulez, s'il y avait un étudiant génial, en principe, il devrait savoir faire ça. Si on lui donne les lois de la physique, il devrait savoir fabriquer une planète. Mais tout ce qui relève de l'hydrodynamique en particulier est quelque chose qui est complètement inconnu. Donc voilà les domaines, si vous voulez, où la science a des difficultés. Mais avec deux domaines bien distincts. Un domaine où, on va dire, on connaît les principes, on ne sait pas les appliquer, et un domaine où, alors là, c'est un petit peu l'inverse, mais on n'a pas grand-chose. On a des idées théoriques à l'appel, mais souvent, quand un fait est inexpliqué, il y a toujours beaucoup de théories. Quand il y a beaucoup de théories, c'est très mauvais signe. Et voilà, donc ces deux domaines sont un petit peu différents dans l'esprit.
Alors là, vous venez d'entendre donc toujours l'interview de Christian Magnan, qui était réalisée le vendredi 14 décembre dernier, à propos de sa conférence sur où va la science, etc. Alors, c'est un passage assez copieux, là, que nous venons d'entendre, qui s'achevait par un des problèmes qui est finalement le point d'achoppement de beaucoup de sciences, ou beaucoup de scientifiques en tout cas, c'est le problème de l'échelle. Et aussi la conception des choses, cette conception analytique atomiste. Le problème, c'est qu'on ne peut pas reconstruire une totalité si on ne l'appréhende pas à son échelle. On ne peut pas non plus expliquer, bon, on parlait de la vie, là justement, la vie ne s'explique pas par la somme des mécanismes élémentaires, mais c'est une logique globale qu'il faut appréhender comme un système thermodynamique, hein, c'est de la systémique qu'il faut faire. Et le problème de l'échelle, c'est aussi un petit peu le propos de Laurent Nottal en d'autres temps, c'est vraiment un des grands problèmes qui est très mal vécu par les scientifiques, qui croient toujours pouvoir extrapoler à l'univers entier, qu'ils ne connaissent d'ailleurs pas, hein, le petit univers local dont ils sont passés, pensent-ils, les maîtres. Bien. Alors, c'est un peu le problème. Là, je soupçonne Christian Magnan d'être un petit peu victime aussi de ce problème d'échelle. Alors, nous verrons, nous entendrons plutôt tout à l'heure la suite de cette interview. Et je crois, mon cher Thierry, que nous allons passer. Eh bien voilà, on n'a pas bougé pendant le jingle.
C'est bien, à toi Daniel.
Et donc toujours la suite, troisième épisode de l'interview de Christian Magnan, réalisé le 14 décembre dernier, à propos justement de ce qui constitue les fondements même de la pensée scientifique, les théories, qu'est-ce qu'il faut en penser, où va la science. C'était le propos de sa conférence, et donc je lui ai posé quelques questions sur ce sujet. Nous écoutons la suite de cette interview.
Alors d'après vous, d'où ça vient cet état de fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une situation différentes des siècles passés? Est-ce que nos scientifiques sont moins bien formés? Parce que on pourrait penser a priori, comme la science était faite il y a deux siècles, il y a trois siècles, c'était essentiellement des gens qui étaient totalement passionnés, investis et souvent fortunés, qui émettaient leur fortune. C'était des amateurs, mais des amateurs extrêmement éclairés, on pourrait dire des professionnels. Alors que quand la science s'est instituée, peu à peu, on a vu apparaître des gens qui étaient au demeurant très bien formés dans les écoles, mais qui en même temps faisait de la science une profession avec peut-être des spécialisations, peut-être justement une simplification de leur univers qui fait que leur culture, pour beaucoup d'entre eux bien sûr, hein, pas tout le monde, était peut-être limitée. Est-ce que ça n'est pas un facteur réducteur sur leur vision des choses et sur leur possibilité justement de bâtir la science aujourd'hui?
Là, je vais un peu me dérober à mes responsabilités, répondre lâchement, puis je ne sais pas si je sais répondre. Bon, c'est pas vraiment... je ne sais pas si je sais répondre à ça. Moi, j'essaye d'établir un diagnostic, et bon, c'est vrai que quand même, je me place à l'intérieur de la science. C'est-à-dire que si je fais une critique de la science, en gros, pour simplifier au maximum, je dis, bon, ben ça, c'est faux, ça, c'est... Il est faux de parler de l'infini, par exemple. Donc, j'établis un constat. Bon, sinon, bon, quand même, les éléments de réflexion qui me viennent à l'esprit, c'est vrai que je suis excessivement frappé par, on va dire, l'hyperproductivité quantitative, au niveau quantitatif, de la science à l'heure actuelle. Et ça, je crois que c'est extrêmement dangereux. Alors, je lancerai volontiers, d'ailleurs, une petite pique, ou même une grosse pique contre l'informatique, qui je ne sais pas si elle me rend... De très grands services dans certains domaines, parce que à l'aide de l'informatique on peut faire tout ce qu'on veut, on peut produire, ça c'est clair qu'on peut produire de façon quantitative, mais trop facilement je dirais. Et donc maintenant se développe une certaine mode qui consiste à modéliser. J'ai un exemple criant. L'exemple criant, c'est tout simplement le modèle qu'on fait de l'atmosphère terrestre, mais on pourrait le dire aussi de l'atmosphère des étoiles. L'atmosphère terrestre, en ce moment, l'hydrodynamique est un domaine pour lequel, j'allais dire vulgairement, la physique patauge. Et la seule chose qu'on a trouvée, enfin la seule méthode qu'on propose en ce moment, c'est l'informatique. C'est-à-dire à outrance, continuer à informatiser, à réduire les systèmes numériques. Alors moi, je prétends qu'on n'a pas les bonnes équations. C'est-à-dire qu'on est en train de mailler la Terre avec à l'échelle de 10 000 km, de 1000 km, mais on ne va pas continuer à l'échelle de 1000 km. Donc je prétends de 1 mètre, etc. Donc je prétends que le processus lui-même, la physique elle-même, on n'a pas suffisamment réfléchi. Et que donc, on va faire une informatique, on peut toujours en faire, on peut toujours développer tous les modèles qu'on veut, mais il y a une limitation qui est énorme et qui est une limitation fondamentale. Alors sans dire encore que tous les travaux qui sont faits à l'heure actuelle s'auto-justifient. Disons qu'il y a de très grands projets astronomiques justement où l'informatique joue un rôle considérable, Mais on ne se pose pas assez la question du modèle qui est sous-jacent et du modèle qui va permettre d'expliquer justement toutes ces données.
En somme, ce que vous dénoncez, et vous avez sans doute raison, c'est qu'il est plus facile de faire de l'analyse et ensuite d'utiliser des moyens prodigieux pour accumuler des résultats d'analyse en espérant que de cette montagne de données surgira une vision cohérente, c'est-à-dire une théorie. Et c'est vrai que autrefois on n'avait pas cette facilité, on était peut-être obligé d'être un peu plus pertinent sur le plan intellectuel qu'aujourd'hui on peut faire illusion avec ce genre de méthode qui n'est pas une méthode au fond. Et donc là on est un peu victime de nos moyens. D'investigation.
Oui, c'est ce qui me fait dire effectivement que la science tourne en rond. Effectivement, je ne vois pas très bien comment on peut en sortir, d'autant plus que c'est un mouvement qui s'auto-justifie. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Écoutez, pour résumer la situation, c'est très simple. Je crois que, tout simplement, un chercheur, maintenant, un chercheur scientifique, c'est de ça dont on est en train de parler, c'est du métier quand même de chercheur. Un chercheur n'a plus les moyens de réfléchir, maintenant. Et je dis que quand un chercheur n'a plus les moyens de réfléchir, eh bien, il me semble qu'il y a quelque chose qui va mal dans la science, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez un étudiant, par exemple, maintenant, si vous dirigez une thèse, et que cet étudiant, il faut absolument, pour des impératifs administratifs et autres, qu'il ait terminé son travail dans les 2 ans ou dans les 3 ans qui viennent, ben vous ne pouvez pas le mettre sur un sujet où il va être obligé de réfléchir, de dépenser sa matière grise pour essayer de faire avancer justement les concepts. Si c'est pour exploiter un programme, il n'y a absolument aucun problème. Et c'est ce qui se fait. Donc il va faire un programme, il va faire des publications parce que maintenant les chercheurs sont jugés au nombre de publications qu'ils font. Mais c'est effectivement ce que je pense, la qualité au détriment de la quantité. Et là, c'est vrai que je trouve que la science est mal engagée.
Je vais introduire un brin de biologie dans ce que vous dites, mais pas dans le sens de tout à l'heure. Et j'ai tendance à penser, et ça ressemble beaucoup à ces organismes qui se fourvoient dans des voies d'évolution dont on sait pertinemment quels seront les échecs lamentables, mais comme le système n'a pas d'autre logique que de s'auto-reproduire, et on a affaire à des systèmes sociaux, à des systèmes de dotation de postes, de crédits, de jugement par les pairs, qui sont effectivement, qui sont une des fiertés de l'institution scientifique, mais qui en sont aussi un gros travers, parce que ce sont des facteurs d'auto-reproduction du système.
Oui, il est assez frappant que je pense que le système est bouclé. C'est-à-dire que... Ben, on peut en parler de ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même des articles, si vous voulez, qui sont refusés, c'est-à-dire que ce qui est très frappant en ce moment, c'est que la critique, disons, à l'intérieur de la science, est impossible. Et ça, il y a quelque chose qui effectivement n'est pas acceptable. Parce que quand même, le propre de la science, c'est de se critiquer. C'est-à-dire qu'il faut effectivement essayer de montrer qu'on est juste, donc répondre à des argumentations. Moi, quand je pense à ce qui se passait aux savants d'antan, qui, passez-moi l'impression qu'ils sont mêlés, mais au moins qui se disputaient, etc., qui faisaient valoir les arguments avec plus ou moins de bonne foi, d'ailleurs, mais au moins qui se battaient pour défendre leur cause et qui essayaient de montrer que leur cause était juste par rapport à d'autres qui étaient fausses. Et maintenant, c'est pas du tout ça. Il y a une espèce d'emprise d'une communauté avec une espèce de conformisme, voilà, qu'on peut pas remettre en cause. Et puis ça, c'est vrai, c'est vrai. Et puis voilà. Et puis donc, certaines choses paraissent et certaines choses ne paraissent pas. Et que la cosmologie, par exemple, pour revenir là, au début, c'est peut-être parce que c'est l'exemple le plus frappant, que la cosmologie à l'heure actuelle se résume à l'univers est-il fini ou infini, ben, on peut penser que du mal de ça. Enfin, c'est complètement fou. C'est-à-dire que ça veut dire qu'effectivement, la cosmologie est en train de se poser une question qui n'a pas lieu d'être. Donc, ben, qu'est-ce qu'on peut penser de la cosmologie? C'est que la cosmologie tourne en rond, n'aboutira pas, certainement. De toute façon, elle ne pourra pas répondre à cette question-là, puisque ce n'est pas une. Voilà.
Oui, peut-être que c'est ça. La science actuelle tente de répondre à des questions qui n'en sont pas et qui ne peuvent donc pas être des réponses, si on peut résumer d'une façon peut-être un peu lapidaire. Votre propos sur la polémique, autrefois la polémique était ressentie comme quelque chose de noble. Je me souviens de notre ami Jean-François Gauthier qui avait appelé son livre « L'univers existe-t-il » sous-titre « Contre Hawking et les universistes ». Et l'éditeur lui a dit « Mais c'est pas bien d'être contre quelqu'un, ça sera mal ressenti ». Et Gauthier a dit « Non, c'est dans la grande tradition littéraire du Moyen-Âge, où l'on écrivait contre quelqu'un, mais d'une façon sainement polémique ». Cette saine polémique qui nous manque peut-être cruellement aujourd'hui, et ce que vous dénoncez d'ailleurs, Christian Magnan, tout à l'heure.
Alors, éternel travers, que souligne Christian, Christian Magnan, dont vous venez d'entendre l'avant-dernière partie de l'interview, réalisée le 14 décembre dernier, où il y a un mélange de conformisme. Il dénonce le conformisme dans les sciences, qui est d'ailleurs alimenté également par cette espèce de boulimie de la production qui est favorisée par les moyens modernes, l'informatique, etc., où finalement on tourne en rond sur quelques concepts que plus ou moins bien digérés, et ça montre bien en fait que la pertinence du regard sur le monde ne résulte pas de la puissance des moyens, mais résulte bien encore, et c'est heureux, de la pertinence du jugement humain, de l'aventure humaine, du regard de l'homme sur les choses. Et là, ben, on n'en sort pas. Il faut des créateurs, il faut des vrais scientifiques et pas seulement des singes savants qui font tourner des ordinateurs. Hein, tout le propos tournait autour de ça, d'ailleurs.
Pour résumer, ce sont des chercheurs, pas des trouveurs.
Oui, c'est un peu lapidaire, mais je crois que ce sont même pas des vrais chercheurs, ce sont, on va dire, mais sans que ce soit péjoratif, ce sont des techniciens, mais sans que le terme doit être pris dans le mauvais sens. Hein. Alors, nous allons passer à la dernière partie de l'interview de Christian Magnan, astrophysicien à l'Université de Montpellier, à propos, donc, où va la science? La science tourne-t-elle en rond?
Je sais que votre livre, vos propos sont polémiques, mais sainement polémique, je dirais. Vous insurgez en tant que scientifique de l'intérieur qui connaît sa matière et qui en connaît aussi les travers. Alors, est-ce que vous pensez que effectivement vous attaquez à plusieurs choses, à la cosmologie, on pourrait dire à la cosmogonie? Quelles sont les limites de votre polémique? Est-ce que ça se limite à quelques petits travers ou à quelques questions qui n'en sont pas? Ou est-ce que ça va plus loin? Est-ce que vous récusez cette notion d'univers telle qu'on l'entend? Est-ce que la théorie du Big Bang, qui est quand même dénoncée par beaucoup de gens, est-ce que ça vous paraît satisfaisant? Ou est-ce que dans l'ensemble, il faut revoir beaucoup de choses? Est-ce qu'il faut, en d'autres termes, est-ce que votre polémique, elle est à grande échelle ou à petite échelle?
Ma polémique, elle n'est pas systématique d'abord. Elle est certainement, je ne sais pas, donc il faudrait préciser chaque point. À grande échelle, je crois qu'elle vise la science dans son ensemble, d'après ce que j'ai dit. Mais dans le fond, il ne faut pas croire que j'attaque tout, hein, loin de là. Et que justement, je défends tout à fait l'orthodoxie. Au contraire, prenons le Big Bang, justement, pour éviter de s'égarer trop et de prononcer des généralités qui sont toujours un petit peu difficiles, quoi. Qui peuvent conduire à des erreurs, à des inexactitudes. Pour le Big Bang, moi j'y crois tout à fait. C'est-à-dire que nous parlions tout à l'heure, si vous voulez, de ce modèle parfait. Ce modèle parfait du Big Bang, je crois qu'il a donné tout ce qu'il pouvait. Il était bien dans son domaine. Il ne faut pas simplement lui faire dire plus que ce qu'il voulait dire. Voilà, ça c'est ma position. C'est-à-dire que le Big Bang, pour moi, c'est évidemment vrai. Et tous ceux qui s'attaquent au Big Bang, non, je n'aime pas du tout. Parce qu'on pourra le dire, les gens s'attaquent au Big Bang souvent, enfin ceux que je connais, pour des raisons métaphysiques. Et là, ça devient grave. D'ailleurs, en cosmologie, c'est déjà arrivé souvent. Et ça continue d'ailleurs, parce que la métaphysique, disons nos idées sur la vie, nos idées sur l'univers, nos idées sur l'homme, interfèrent avec la science. Et ça, c'est excessivement grave, c'est très grave. Donc voilà. Donc le Big Bang, oui, je ne conteste absolument pas le Big Bang. Ce que je conteste simplement, c'est que je dis que l'univers n'est pas simplement homogène, isotrope. C'est tout ce que je dis. Mais le Big Bang, dans son ensemble, je pense que c'est un concept qui est absolument vrai. Je ne le répète absolument pas en question. Non, ça, je crois que justement, c'est l'une des choses qui me frappe. J'ai osé dire dans mon bouquin, et ça fait aussi bondir beaucoup de gens, mais d'un certain côté, je persiste et signe. J'ai osé écrire que la science ne s'est jamais trompée. Et je persiste et signe, si on veut bien comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que les théories qui ont été établies, la théorie de Newton, elle est à jamais vraie. La théorie de la relativité générale d'Einstein, elle est à jamais vraie. Et c'est pas moi qui vais la remettre en question. Et justement, quand je reçois souvent, c'est vrai que des gens qui lisent entre les lignes interprètent mal mes pensées. Et souvent me prêtent des pensées que je n'ai absolument pas. Et c'est vrai que je récupère des lecteurs qui souvent me disent « Ah, voilà, quelqu'un qui conteste tout ». C'est pas du tout mon propos. Moi, le Big Bang, je suis tout à fait pour.
Oui, vous avez raison de rappeler ça, en tout cas de rappeler un mode de lecture de ce que peuvent dire les gens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les propos, même quand je parle de polémique ou quand je parle Big Bang, effectivement, il faut vous lire, il faut savoir lire, je dirais. Et les choses ne sont pas si simples.
Et c'est vrai que souvent, les gens pratiquent une espèce de zapping intellectuel. À partir du moment où vous dites une chose, ah, vous êtes contre ceci, vous êtes pour ceci. Non, on peut très bien être pour le Big Bang et récuser, par exemple, la notion d'un univers, si cet univers est pris comme un objet de science et si on fait des confusions. Je pense que vous êtes loin, justement, d'être un polémiste du genre, effectivement, je défends telle idée, et voilà, point. Non, c'est, vous avez des raisons, et je pense que il y a beaucoup de choses cohérentes en science qu'il faut garder. Quand vous dites que la science ne se trompe jamais, ça ne veut pas dire au sens premier qu'on ne peut pas récuser, ça veut dire simplement que les propositions, lorsqu'une observation est contraire à une théorie, il faut chercher ce que dans la théorie est à généraliser pour inclure cette observation, plus que simplement dire ça y est, tout est faux.
Oui, ce que je voulais dire plus précisément, c'est que les théories qui sont établies, elles sont établies, encore une fois. La relativité générale, par exemple, elle est juste, à jamais. On ne pourra pas la remettre en question. Et s'il faut aller au-delà, et certainement il faut aller au-delà, eh ben, il faut inventer une autre théorie, mais qui englobe la théorie de la relativité générale. Sinon, effectivement, c'est lire tout le monde, d'ailleurs, savoir ce que les gens veulent dire. C'est vrai que sur cet aspect de la science, il est clair qu'il y a les deux aspects, et dans les idées que je défends, il y a toujours les deux aspects, c'est-à-dire que d'un certain côté, j'attaque l'hégémonie de la science, j'attaque le fait de considérer la science comme hégémonique, comme voulant tout savoir, tout posséder, etc., tout contraindre. Mais d'un autre côté, il est clair que c'est pas moi qui vais défendre l'astrologie, et donc je défends la science, je suis le premier, je serai sur tous les fronts pour défendre la science avec un grand S contre justement tous les travestissements de science. Donc il ne faut pas compter sur moi pour faire de la fausse science, de la faire de la science au rabais, de faire de la science avec des bricolages, etc. Ça, sûrement pas. Donc je défends tout à fait la science orthodoxe. Mais simplement, pour reprendre un mot que j'ai employé, j'aime bien faire, pour reprendre des mots d'Annie Leclerc, d'ailleurs, qui était à propos du féminisme, parce que c'est un aussi de mes thèmes qui sont chers, qui faisait une différence entre pouvoir, justement, et puissance, pouvoir masculin et puissance masculine. Je ferais exactement, si vous voulez, la même distinction, c'est-à-dire que je dirais la puissance de la science, oui, mais le pouvoir de la science, non.
Oui, ça pourrait presque être une belle conclusion, et je m'en veux un petit peu de surenchérir, parce que je crois que beaucoup de problèmes... Alors, je crois que dans tout ce que vous avez souligné, il y a deux choses à distinguer. Il y a effectivement l'approche assez superficielle, on va dire, du grand public, en tout cas des gens qui pensent que la science est avant tout un discours, une accumulation de faits, et que les scientifiques affirment, et il y a ceux qui vont un petit peu plus loin, dont les scientifiques eux-mêmes, qui savent que la science, c'est une méthode, c'est une réflexion. Et il y a deux sortes de théories, on pourrait dire. Vous avez parlé du Big Bang, que l'on appelle la théorie du Big Bang, qui est plus une reconstitution, c'est un peu comme la théorie de l'évolution en biologie, on essaye de rassembler tout pour en faire quelque chose de cohérent, et il y a la théorie de la relativité, qui est plus une théorie du cadre, qui vous dit, voilà, la représentation du monde, c'est comme ça qu'il faut l'avoir pour synthétiser. Et je crois que pour finir, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que avant tout, la science ne propose pas des réalités ou des images de la réalité, ou plutôt si, propose simplement des représentations, des images de cette réalité, et il ne faut pas y voir la réalité elle-même. Et ça, une fois qu'on le sait, on est moins choqué du caractère un petit peu abstrait de certaines théories. Donc ça, c'est peut-être le problème là vient de l'information telle qu'elle est distillée, l'information de la science qui est mal diffusée et qui engendre ce genre d'appréciation.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dirais que dans mon propos, il faudra peut-être justement... Le mot science est un petit peu ambigu. Il faut peut-être le préciser. C'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que je m'attache surtout, disons, à la science théorique. Parce que c'est le domaine auquel j'ai réfléchi. Et c'est vrai qu'il faut peut-être distinguer entre sciences, on va dire, sciences fondamentales, les sciences de base, qui sont celles auxquelles je m'intéresse, et puis les sciences qui sont un petit peu les sciences, on va dire, plus appliquées, les sciences qui, justement, modélisent un petit peu l'univers, mais d'une façon plus, on va dire, plus empirique, si vous voulez. Et bon, c'est vrai que moi, j'ai choisi de réfléchir sur le côté de la science fondamentale, parce qu'il me semblait que cet aspect-là, justement, n'était pas suffisamment remis en question. Parce qu'au fond, si vous voulez, à un niveau macroscopique, il est relativement facile de dire, bah, finalement, les modèles, c'est une approximation. Voilà, c'est peut-être le mot qui correspond. C'est peut-être une approximation de la réalité. Mais peu de personnes sont prêtes
à croire, et c'est donc justement, c'est pour ça que je défends cette idée, qu'au niveau fondamental, même au niveau fondamental, le modèle est complètement différent de la réalité. C'est pour ça qu'au niveau de l'univers, ça me paraît complètement important de le dire. Parce que tout le monde serait prêt à croire que finalement, bon, l'univers, il est exactement ce qu'en disent les astrophysiciens. Et c'est ça que je contre. Et ça, la différence, elle est valable justement. Et donc, encore une fois, c'est ce point-là qui m'intéresse, c'est mon point particulier de discussion, même au niveau de la mécanique quantique, au niveau de la constitution de la matière. C'est à ce niveau-là que la science déjà... alors, j'aime pas le mot approximation, pas du tout. Je dirais que la science, le modèle est en dialogue avec le réel, est en rapport avec le réel, mais qu'il ne s'identifie pas au réel. Je mets en exergue de ma page web rapport et non identité. Il y a un rapport entre la théorie, entre le modèle théorie et le monde réel. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Appeler un chat, il y a un rapport, mais pas une identité. Aussi simple que ça, dans mon idée.
Voilà, et si vous voulez en savoir plus long, parce que il y a une information fort riche, il y a beaucoup de réflexions passionnantes de Christian Magnan sur son site web. Je ne vous rappelle pas l'adresse parce que je ne la connais pas par cœur, mais il est très facile de la trouver en passant sur notre site internet san-fr.com et vous prenez les pages conférences et je laisse la conclusion à Christian Magnan.
Non, ou tout simplement en faisant avec un moteur de recherche cosmologie plus magnium, on trouve plus facilement parce que c'est vrai que les adresses web sont un petit peu difficiles à donner.
Voilà, non, moi c'était un truc pour que les gens aillent sur notre site internet. D'ailleurs, c'est aussi rapide que par les moteurs de recherche. Je sais que beaucoup de gens y vont pour comme un moteur de recherche. Voilà, eh bien, merci beaucoup Christian Magnan. Donc on aura plaisir à vous entendre ce soir lors de votre conférence.
Plaisir alors, de parler avec vous, voilà.
L'interview de merci. Christian Magnan, comme vous venez d'entendre, qui était réalisée le 14 décembre dernier à propos de juste avant sa conférence, qui s'appelait donc « La science tourne-t-elle en rond ?». Alors effectivement, tout au long de cette interview, vous avez entendu pas mal de propos sur la science et sur ce que ses prolongements et son maniement, je dirais, à la fois par les scientifiques et le grand public. Alors dans cette dernière partie, on a effectivement souligné un point essentiel, c'est qu'est-ce que réellement la science, cette représentation du monde qui est celle des scientifiques, d'une part qui présente des travers. On a parlé tout à l'heure du problème d'échelle. On a évoqué, Christian Magnan, un problème qui est la construction scientifique. Comment peut-elle se remettre en cause? Comment doit-elle évoluer? Et on a un travers aussi qui s'appelle la médiatisation, tout simplement, c'est-à-dire la simplification et la déformation du discours scientifique dont sont victimes, y compris les scientifiques eux-mêmes. D'ailleurs, c'est souvent eux qui sont à la source. On accuse souvent les journalistes, mais c'est souvent les scientifiques eux-mêmes qui distille ce genre de simplification. Et enfin, cette fameuse histoire de Big Bang, où là, je pense qu'il y a quand même un petit... faut souligner le petit défaut quand même. Christian Magnan croit au Big Bang, c'est comme ça. Simplement, c'est une reconstitution qui est, elle aussi, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec ce qu'on peut appeler la structure de l'univers ou la structure de l'espace-temps, ou du moins ce que peut être une géométrisation de l'univers dans un cadre théorique. Ça, c'est une chose qu'a fait Einstein. C'est une chose, mais Einstein n'a jamais parlé de Big Bang. Et après, ben on a un peu essayé de raccommoder, de rassembler tous ces morceaux, y compris les observations du Hubble, pour faire ce grand modèle que l'on a appelé une théorie, mais qui n'a non plus rien à voir qu'une théorie, dans la mesure où ça n'est pas non plus quelque chose qui va unifier les concepts et qui va être fécond, qui va engendrer de nouvelles voies d'investigation du monde. Pas du tout. C'est au contraire quelque chose qui va essayer de ramener tout ce qu'on peut penser ou observer à ce qu'on appelle cette théorie du Big Bang. Alors, on n'en dira pas plus parce que c'est l'objet d'une polémique et je pense que la polémique, elle est saine et ce n'est pas non plus, on ne peut pas non plus s'arroger du droit du professionnel de dire voilà, ben, nous détenons la vérité. D'ailleurs, Christian Magnan est le premier à le dénoncer et ben, nous irons dans son sens en disant que, ma foi, tout le monde a le droit aussi de mettre son grain de sel dans les propositions de la science et l'aventure scientifique, elle n'est pas prête de s'achever avec ce qu'on croit, avec le Big Bang, détenir le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga de toute chose. Ce n'est pas ça. Et la science continue, mon cher Thierry.
Merci Daniel. Il faut rappeler qu'à la Société de l'Astronomie de Nantes, on ne fait pas que de l'observation. On organise des conférences, on fait plein de choses. Et aussi, on réfléchit justement à ces concepts. On fait des exposés, etc. Donc on est là aussi pour essayer d'appréhender...
On a une commission d'astronomie théorique.
Voilà, on est aussi là pour appréhender toutes ces notions plus ou moins difficiles, pour essayer de trouver peut-être pas une solution, mais au moins de pouvoir avoir un œil plus critique et puis de connaître un peu ce qui nous entoure. Vous êtes toujours sur Alter Nantes avec la Société de l'Astronomie Nantes pour l'émission Pulsar. On vient juste d'écouter la dernière arête avec les feuilles.
Parce qu'on les entend.
Oui, on les entend. Les auditeurs,
le téléphone. C'est la séance en marche.
À la fin de chaque émission pour nous dire il y a les feuilles de Daniel.
Et vous en êtes froissé.
Ouais, je suis froissé de tes feuilles. Donc, je disais, voilà, il m'a coupé dans ma conclusion. Bon alors, Claudie, envoie la musique.
J'ai barré le neurone.
On est toujours en direct sur Alter Nantes avec la Société d'Astronomie de Nantes pour l'émission Pulsar. C'était les champs magnétiques de Jean-Michel Jarre.
C'est pour ça que ton stylo a été attiré.
Voilà, c'est pour ça que mon stylo a glissé. Les champs magnétiques de Jean-Michel Jarre, le numéro 4 en fait des champs magnétiques, pour information.
Les champs électromagnétiques.
Le crayon a fait plus de bruit que les feuilles de Daniel tout à l'heure.
Oui, c'est possible.
Voilà, on est en pleine polémique.
Alors pendant la petite pause musicale, notre ami Pierre est reparti vagabonder vers ses étoiles. Et Claudie a lâché les manettes, donc il n'y a plus personne... aux commandes, il y a Jean qui assure aidé de son compère Dominique qui vont nous assurer la technique pour la suite de l'émission. Tout de suite, c'est Fabrice qui prend la suite, Fabrice Dubreuil, qui va vous parler des actus astro, le monde. Quoi, t'aimes pas mes transitions, c'est ça?
Elles sont d'enfer.
Ouais, je trouve aussi, moi. Bon, okay. Fabrice, qu'est-ce qui s'est passé de beau dans le monde? Quelles sont les nouvelles?
Le monde tourne-t-il en rond?
Oh, il tourne. D'abord, non, il ne tourne pas en rond, il tourne en ellipse.
Ah oui, monsieur Keplerise.
D'abord. Voilà. Mais bon. Non, une fois de plus, il y a plein de choses ce mois-ci. Plein de choses. On commence 2001, enfin, on finit 2001 très bien, et on commence 2002 pas mal aussi, mais 2001, c'est fini en grande pompe. C'est vraiment de le dire.
Qui a eu des grandes chaussures?
Oh. Non. Bon,
celle-là, elle était nulle. Voilà. Allez, continue.
Donc, on va commencer, comme d'habitude, par la station spatiale. Ah. Voilà, comme toujours.
Elle tourne toujours, elle?
Elle tourne toujours.
C'est bien.
Le petit micro de l'espace, il tourne toujours.
C'est plus Mir, hein, je crois.
Non, c'est la station spatiale. Ben non, Mir...
Ils l'ont nettoyé depuis.
Mir, c'était les événements de 2001, ça... Bon. Toujours est-il que, à bord de la station, la vie s'écoule entre ravitaillement par le vaisseau Progress et visite de la navette.
On parle toujours ravitaillement, mais quand ils vont aux toilettes, ça va où tout ça?
Ça repart. Je veux vraiment savoir, c'est recyclé.
Oui, je veux savoir.
C'est recyclé en partie, c'est...
avec l'urine, il faut l'oxygène.
C'est évacué également, enfin bon, c'est... Bon.
Mais c'est excellent, ça, oui, parfait, voilà, nous avons appris quelque chose. On n'en parle jamais, hein.
Mais donc...
Ils en font des euros.
Voilà.
Non, ils n'en font pas des euros, mais ils en font beaucoup de choses. Enfin bon, toujours est-il que au mois de décembre, il y a donc eu un ravitaillement qui s'est passé tant bien que mal, puisque le Progress, une fois de plus... On va dire une fois de plus, parce que ça arrivait tellement souvent avec Mir, ça continue avec la station spatiale, et est arrivé, et a loupé l'arrimage, donc il a fallu 3 jours de plus pour bien l'arrimer, mais bon, ils ont quand même eu à bouffer.
Comme dit Prévert, la rime à quoi? La rime à rien.
La rime à rien, tout voilà. À fait. Et la deuxième chose, ça a été la visite de Endeavour, qui est venu relever l'équipage, avec la navette. Mais bon, ça a encore été toute une histoire, là, parce que, bon...
Le cargo progresse, il y a du retard.
Mais non, Progress est en retard, la navette a décollé plus tard, mais en plus la navette américaine décollant des États-Unis étant la première navette à décoller depuis le 11 septembre, imaginez un peu le délire autour du lancement de la navette, les chasseurs américains au-dessus de Cap Canaveral pour empêcher quiconque
de s'approcher. Pour shooter tout Boeing qui se rapproche.
Mais au-dessus aussi au moment de l'atterrissage, un jour plus tard, au cas où il y a quelque chose qui se passerait.
Depuis enfin, ça bon... s'appelle Cap Carnaval.
Ça bouge beaucoup là-bas.
Enfin bon, toujours est-il que ça s'est très bien passé, ils ont eu très peur, mais parce qu'ils ont dit on va nous casser notre navette, et ben non. On n'a pas cassé la navette. Ils sont montés le 6 décembre, ils sont descendus le 17, très bien. Une petite nouvelle pour la station spatiale internationale, c'est que la NASA a donné enfin son accord pour le deuxième touriste de l'espace, après Denis Tito, si bien que moyennant la bagatelle de 2 millions de dollars par jour, quand même, hein, ça, c'est plus qu'un seul gros sport d'hiver, le Sud-Africain Mark Shuttleworth, alors Shuttleworth c'est amusant parce qu'il a un nom qui est composé en partie du mot navette, c'est amusant, va partir en avril prochain sur l'ISS pour 10 jours. Donc si vous avez 20 millions sous la poche, 20 millions de dollars, vous pouvez toujours tenter. C'est possible maintenant.
À propos de chiffres, tu parlais de 2 millions de dollars par jour.
Oui.
Eh bien, je peux t'annoncer que les 25 millions de dollars que les Américains ont offert pour la capture de ces choses-là, hein, l'ADEN, eh bien, ça représentait un quart d'heure de guerre en Afghanistan. Oui. Donc, calcule combien ça coûte 2 millions de dollars la journée.
Et après, on nous coupe les crédits pour les missions spatiales.
Voilà, t'as tout compris.
À l'autre bout de la Terre, par rapport aux États-Unis, au pays du soleil levant, et les journaux ont la tête dans les étoiles au début de l'année. Là. Là, dans la semaine qui vient de s'écouler, deux informations dans deux journaux différents. La première, le Japon va construire une navette spatiale. Et si, ils ont envie, ils ont affoué des grandeurs. Donc d'ici 10-15 ans, il devrait y avoir une navette spatiale japonaise.
Ils vont se faire des politesses après vous, non, après vous, je vous voilà. En prie, à la japonaise, non.
Mais non, parce qu'ils ont trouvé autre chose encore.
Ils vont la faire avec un tatami.
Il y a un deuxième programme en cours. Maintenant qu'ils ont une belle fusée, la fusée H2 qui fonctionne bien, ils sont en train de construire une capsule, un programme pour avoir une capsule, pour emmener 5 personnes dans l'espace à la fois. Mais finalement, quand on prendra la fusée, ce ne sera pas plus violent qu'une montagne russe. Donc c'est tout de suite la porte ouverte au tourisme spatial, tout le monde pourrait y aller. À partir du moment où on aura les millions de dollars pour payer le voyage, mais bon, il n'y aura pas de problème pour ça. Donc ça fait déjà couler beaucoup d'encre au Japon. On en reparlera.
De Chine.
L'encre de Chine, oui.
Voilà,
l'encre de Chine au Japon. Et les Américains avec leur capsule de Coca-Cola, bien sûr.
Aussi, d'ailleurs. Ça, côté problèmes. Européen, c'est gens qui rient, gens qui pleurent, plus de gens à la technique.
Voilà. Voilà, ce que j'allais dire aussi.
Avec ses oreilles de Mickey.
Non, c'est les casques, c'est pas ses oreilles. Mais...
Ah bon.
Donc, gens qui rient, c'est la mise en orbite de Jason One. Jason One, c'est le successeur de Topex Poséidon. Alors, Topex Poséidon, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un satellite qui avait été lancé il y a 10 ans, en août 92, juste avant la nuit des étoiles. C'était amusant parce qu'après, on pouvait essayer de le toper au-dessus de notre tête le soir.
C'est vrai qu'on avait essayé de toper Topex.
Mais oui. Et c'est un satellite qui a observé pendant 10 ans, continue encore, parce qu'il fonctionne encore à peu près, les océans. Il a observé les océans et...
La surface, oui, la forme de la Terre.
Et la forme, surtout les mouvements des océans, où il pouvait mesurer à 10 cm près la hauteur d'une vague depuis l'espace. Donc il a découvert beaucoup de choses, dont entre autres le phénomène El Niño, qu'il a un peu expliqué. Donc Jason One a été lancé, il devrait faire la même chose dans les 4-5 ans à venir. Côté européen, une autre première qui a été réussie, c'est que Spot4 a transmis courant décembre une image, enfin fin novembre exactement, une image à Toulouse, alors qu'entre Spot4 et Toulouse, il y avait la Terre. Comment a-t-il fait? Tout simplement en transmettant l'image par laser, en liaison optique, au satellite Artemis qui lui était apporté pour émettre sur Toulouse, qui a retransmis sur Toulouse, et l'image est arrivée impeccable, sans aucune perte de données.
C'était passe réussie.
Et ça, c'est la première mondiale et c'est européen. Voilà, faut le souligner avec
par contre, côté européen, on a fait une belle boulette.
Oui,
là, je ne vais pas faire la chronique que nous a mis les bêtes, parce qu'on est très bêtes, nous. On avait enfin la possibilité d'avoir notre GPS. Parce qu'il faut savoir, le GPS dont on parle partout dans le monde, c'est américain et 100% américain. Et si un jour ils disent, vous n'y avez plus accès, on n'y a plus accès. C'est comme ça.
Nous, ils disent, vous n'aurez plus accès.
Voilà. On pouvait avoir un GPS européen. Eh ben non, le Conseil des ministres des Transports a décidé qu'il n'y aurait pas les sous. Donc ça devait être fait en 2008, mais à mon avis, ça aura le même sort qu'Hermès.
Voilà.
C'est dommage.
Bande d'andouilles.
Mais laissons là la mauvaise état ambiante. Et
tu parles de ministre, mon cher.
En allant rêver un peu sur Mars, parce que depuis Mars, il y a plein de nouvelles sympas qui arrivent, entre autres par Mars Global Surveyor et Mars Odyssey. Alors Mars Odyssey, qu'est-ce qu'on a fait avec Mars Odyssey? Elle est arrivée en banlieue de Mars, on a commencé à tester les instruments. Et là, ils ont lancé le détecteur d'hydrogène au-dessus du pôle de Mars. Et vous pensez détecter l'hydrogène ambiant? Ils ont détecté une forte concentration d'hydrogène. Conclusion, il semblerait qu'il y ait de l'eau, de la glace d'eau, très proche de la surface de Mars, qui expliquerait pourquoi il y a de l'hydrogène aussi haut au-dessus du pôle de Mars.
Alors attends, de l'eau sur Mars, ça fait longtemps qu'on
sait. Oui, mais on sait de l'eau, mais pas aussi proche de la surface.
Ça, c'est des pinailleries. On dit que le sol est gelé. Il est gelé.
C'est gelé de gaz carbonique.
Il est aussi gelé, non, de glace d'eau?
Pas entièrement. Ouais. Pas entièrement.
Les deux. Moi, je réconcilie les...
Toi, tu réconcilies. Voilà.
Ça, c'est Mars Odyssey qui a fait ça. Mais Mars Global Surveyor a fait encore plus drôle. Mars Global Surveyor, elle tourne autour de Mars depuis maintenant quelques années. Et en 99, elle avait fait une étude complète de la calotte australe, qui est composée de glace, de gaz carbonique. Et elle a refait la même étude cette année. La différence est assez frappante. Et on s'est rendu compte que le gaz carbonique de la calotte de glace était en train de s'échapper dans l'atmosphère de Mars beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Si bien qu'on a estimé que dans un temps astronomiquement court, 100-200 000 ans, l'atmosphère de Mars pourrait doubler de volume, et de masse surtout, et donc si elle double de masse, la pression atmosphérique augmente, la température augmente, la glace fond, de l'eau coule sur Mars, etc., etc., et il y a la vie sur Mars.
Mais d'après Magnan, non, mais d'après nous, si.
Mais d'après nous, si. Mais bon, ça sera dans quelques centaines
d'années. Alors, notez sur vos agendas qu'on l'a dit le 7 janvier 2002.
Que dans quelques centaines de milliers d'années, il y aurait de l'eau sur Mars.
Voilà, et vous consentirez vos agendas dans quelques centaines de milliers d'années.
Vous aurez une place gratuite à nos conférences.
D'ici là, pourrais quand même terminer là-dessus pour ne pas oublier que bon, ça, ce sera peut-être que dans quelques centaines de milliers d'années. Donc d'ici là, la seule planète où on peut vivre, c'est la nôtre. Alors il ne faut peut-être pas oublier ça en début d'année et penser chacun un peu de notre côté à faire attention, à y prendre soin.
C'est ce qu'on a mis dans nos vœux d'ailleurs.
Voilà.
C'est très bien. Merci Fabrice pour ces actualités toujours complètes, détaillées et agréables à écouter. Et là, nous allons embrayer sur les conférences de la semaine de l'astronomie. On vous en a parlé tout à l'heure. Le petit marathon de l'année, il commence le lundi 21, finit le vendredi 25. 5 conférences à la suite. C'est parti Daniel, c'est à toi.
Et le petit marathon, il commence maintenant aussi, parce voilà. Que je dois rattraper 4 minutes. Eh bien j'ai largement le temps, parce que ce sont des conférences magnifiques. Alors, on a chaque année, vous le savez, on n'a pas de thème, on essaye de coller à l'actualité. Eh bien, le thème finit par se dégager. Eh bien, cette année, curieusement, nous avons, sur les 5 conférences, on en a 4 qui portent un peu sur l'histoire des sciences. Attention, ce sont pas des conférences d'histoire, ce sont des conférences qui montrent comment l'aventure scientifique a été vécue et comment elle a émergé sur la connaissance d'aujourd'hui. C'est extrêmement actuel et vous savez qu'à l'échelle de l'astronomie, ça aussi c'est sur notre carte de vœux, le temps se fond dans l'espace. Qu'est-ce que c'est? Quelques décennies. Hein, on dit pas décades comme les ministres incultes, nous, mais on dit décennies, hein, voilà. Quand c'est 10 ans. On a une garantie décennale, etc. Bon. Alors, 5 conférences. La première, eh bien, c'est Yvon Georgelin, qui est astrophysicien marseillais. Yvon Georgelin, c'est un ami de Michel Marcellin, qui était... Lui, Georgelin aussi, lui, était directeur de l'Observatoire de Marseille. Cet observatoire qui est méconnu, qui fut un des grands pôles de l'astronomie européenne, française notamment, qui était d'ailleurs la plus grande pendant longtemps dans l'Europe.
Et qui est toujours.
Et qui l'est toujours, hein, et même au monde. Et qui est, en plus, ça ne gâte rien, qui est d'origine bretonne.
Ah.
Alors, Yvon Georgelin, c'est un breton.
Voilà.
Et alors, plutôt que de nous parler de ce qu'il connaît bien, l'astrophysique.
Il va nous parler de
parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est Yvon Georgelin et son équipe qui a établi la structure spirale de la Voie lactée, donc qui dit qu'il y avait 4 spirales dans la Voie lactée, donc c'est pas n'importe qui. Mais là, il a envoyé de parler de Pythéas le Massilote. Pythéas, qui est donc le Marseillais, qui a vécu au 4e siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ, hein, on peut le dire aussi. Hein.
Approximativement. Oui.
Et il a mené En fait, qu'a fait Pythéas? Eh ben, Pythéas, on en parle beaucoup, j'ai vu des conférences déjà sur Pythéas, c'est un personnage qui commence à être connu, c'est bien longtemps avant les grands navigateurs. Il a été très loin en Europe du Nord. Il a découvert la Bretagne armoricaine, c'est-à-dire la Bretagne, notre Bretagne à nous, hein, les îles britanniques, la fausse Bretagne, la Norvège, la mer Baltique et la mythique Thulé. Thulé, c'est l'Islande, hein, tout le monde sait ça. Alors je vais quand même faire plaisir aux Bretons, parce que moi qui suis alsacien, j'aime bien faire plaisir aux Bretons. Il a découvert l'avancée de la péninsule armoricaine, donc le nez, hein, de la Bretagne, le territoire des Ostimiens. Il a situé Corbillo, qu'on appelle aujourd'hui Pénétin, le promontoire de Cabaillon. Le promontoire de Cabaillon, c'est la pointe de Pinmar. Et la dernière des îles de Uxizama. C'est qui ça, Uxizama? C'est Ouessant. Ah! Alors en fait, ces noms apparaissent dans notre histoire nationale, avec des noms de Marseille, etc., bien avant Lutèce et les autres cités de Gaulle qui ont été découvertes bien plus tard. Ah oui. Alors il a été aussi un fin observateur du ciel et de la mer, il a découvert que les marées sont corrélées avec la Lune, ce que Kepler établira en 1605, il dira que la Lune attire finalement l'eau de la Terre. Et donc c'est un des premiers à avoir dit ça, et puis il a aussi mesuré la dimension de la Terre. Et il a aussi fait une chose extraordinaire, il a mesuré avec une grande précision la hauteur du soleil au solstice d'été, et géométriquement, il a donc déterminé l'obliquité de la Terre sur l'écliptique. Bref, un grand scientifique, un grand marin, un grand scientifique.
On connaît peu, en fait, paradoxalement.
On va le connaître.
C'est
là,
pour ça qu'on l'invite, ouais. Yvon Georgelin.
Georgelin a commis un livre merveilleux avec un aquarelliste fantastique sur... les voyages de Pythéas. Donc venez, ça sera lundi, le 21 janvier, à 21h, au Muséum d'Histoire Naturelle.
Et donc, commencer un marathon par un grec, c'est très bien.
Voilà, c'est merveilleux. Non, il était Massilote. Bon.
Alors, il était grec.
Il était grec, oui. Massilia.
Pythias, d'ailleurs, sur l'affiche de la semaine de la seconde, on a cru bon de rajouter un H.
Oh, faut pas le dire. Si. Il y a un bug. D'ailleurs, toute affiche de collection doit comporter une petite faute. C'est bien pour ça qu'on a laissé cette merveilleuse petite faute. On a mis un H en trop. Pythias est devenu Pythias.
Voilà, comme si les Grecs, là.
Voilà. Tu me fais qui est, mon cher Thierry?
Oui. Toi aussi. Vas-y.
Alors. La deuxième conférence, c'est mardi soir, le 22 janvier. Là, nous invitons un ancien adhérent de la Société d'Astronomie, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup parler de lui ces temps derniers, parce que c'est un farfouilleur de génie qui a fouillé l'histoire astronomique de Nantes. Vous savez que Nantes était non seulement un grand port, mais était finalement une cité, un fleuron de l'astronomie. La patrie de Jules Verne, en fait, est tout à fait digne de l'écrivain. Cette cité ouverte sur l'océan peut aussi s'enorgueillir d'un riche passé astronomique. Et alors, en fait, il y avait des observatoires météorologiques, bien sûr, qui étaient liés à l'Observatoire de Paris, mais Nantes possédait un observatoire, une Flandre. Et alors, vous le savez, Thierry, hein, vous le savez tous, c'est là où est née la première société astronomique de Nantes en 1884. Donc cet observatoire de la rue de Flandre, 18 de la rue de Flandre, tout le monde peut le voir à Nantes. Et en fait, il est un abandon et c'est à notre plus grand désespoir. On fait tout pour essayer de le sauver. Alors cette page de l'histoire de Nantes est passionnément racontée, est passionnante aussi à écouter par Olivier Sauzereau. J'ai pas encore dit d'ailleurs que c'était Olivier Sauzereau qui en parlait.
C'est Nantes au temps de ses observatoires.
Nantes au temps de ses observatoires, merci Thierry. Donc mardi, le 22 janvier prochain. Troisième conférence.
Mercredi.
C'est le mercredi soir, le 23 janvier. C'est Guy Boistel qui va parler des astronomes et de l'instruction des marins au siècle des Lumières. Alors Guy Boistel est un professeur de physique. Il travaille à l'IVETE. Hein, tous les élèves s'élèvent le connaissent bien. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que d'abord c'est un homme extrêmement intelligent et cultivé. Guy Boistel, bien sûr, adhérent de membre de la Société d'Astronomie de Nantes, mais qui est en même temps un excellent musicien. Je fais une petite parenthèse puisqu'il est très connu, il donne des concerts de jazz, mais c'est un jazz extrêmement raffiné parce qu'il travaille beaucoup sa musique classique. Et Guy Boistel a fait récemment une thèse d'histoire des sciences, justement sur cette période du XVIIIe siècle, où il s'est passé énormément de choses. Notamment, ça a été la grande période de l'astronomie métrique, qui a été à l'honneur en France. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que Louis XIV a construit l'Observatoire de Paris, qui sera l'objet d'ailleurs de la dernière conférence de cette semaine. Alors, il va nous parler justement du problème entre la marine française, qui se voit dotée de règlements de plus en plus précis, et aussi à qui on essaye de faire profiter des derniers progrès de l'astronomie métrique, justement dans le problème du positionnement en mer, qui reste un problème énorme, hein, que je vous laisserai découvrir, parce que c'est vraiment, il y a eu des prix formidables pour que les gens trouvent des moyens pour que les marins puissent se positionner. Alors il y avait deux écoles, hein, celle de l'abbé Lacaille qui pensait que les officiers qu'on devait mettre l'astronomie à la portée finalement des marins, non pas qu'ils étaient bêtes mais que c'était pas des spécialistes en astronomie, et d'une autre école, celle qui nantait Pierre Lévêque et qui était justement qui pensait, comme Borda, qu'il fallait que les marins acquièrent des notions très importantes.
C'est deux façons totalement différentes d'aborder le principe, et c'est vrai que ces deux écoles vont s'affronter, entre guillemets.
Vont s'affronter.
Et puis donc, ça va être compté, toutes ces histoires, à part...
Avec une grande richesse de recherche historique, parce que Guy Boistel est véritablement un historien qui travaille d'ailleurs avec Jacques Capaillard, hein, qui est au Centre François Viette de l'Université de Nantes, la Faculté de mathématiques. Donc ça, c'est mercredi soir, le 23.
On passe au jeudi
avec... ça c'est la petite pointe, là, le lien entre le passé et le présent, avec la conférence de Ludwig Sennicke, qui est à l'Observatoire de Meudon, qui est astrophysicien, physicien même, sur la physique des hautes énergies. Il a travaillé en Angleterre, au CERN. Et au CERN. Et alors, il a travaillé sur les pulsars, les plasmas interplanétaires. Enfin, il a travaillé sur beaucoup de sujets très, très, très récents, et notamment les rayons cosmiques. Et là,
c'est le problème.
Voilà, les rayons cosmiques ultra énergétiques. Alors, il y a deux mystères actuellement. Il y a la matière noire et l'énergie noire. Et il y a ces fameux rayons cosmiques ultra énergétiques, qui, contrairement à la matière noire et l'énergie noire,
qu'on explique bien, mais qu'on n'a jamais observé. Là, c'est l'inverse. Les rayons cosmiques ultra-énergétiques, on les a bien observés, on les a bien... mais ils ne devraient pas exister d'après les modèles, justement, cosmologiques actuels. Donc là, on a un problème où la théorie n'arrive pas à digérer un résultat expérimental. C'est encore autre chose. Hein.
Par rapport à ce qu'on parlait de croissance magnétique, en fait, là, c'est vrai qu'on a des, voilà. On observe des rayonnements, entre guillemets, qui ne servent à rien dans la théorie actuelle.
Ben, on ne sert à rien
donc, dans la théorie. S'ils ne servent à rien, ça m'étonnerait qu'ils existent. Donc, soit ils n'existent pas, dans ce cas-là, il faut qu'on explique comment, voilà. C'est quoi les biais qu'on observe, ou soit ce qu'on peut penser, c'est qu'ils existent vraiment, et dans ce cas-là,
voilà.
Bah, faut un peu, soit changer, soit améliorer la théorie actuelle.
Tout donc, à fait.
C'était pour la conférence de jeudi.
De jeudi 24 avec Ludwig Selnikier. Là, nous passons à la dernière conférence, c'est celle du vendredi 25, avec Daniel Briot. Daniel Briot, qui est une femme extraordinaire, puisque nous l'avons vue hein, à l'œuvre, elle nous a raconté l'histoire de l'Observatoire de Paris avec une verve, avec une maestria, avec une somme de, une luxuriance de détails inouïe. Et ça a été un ravissement que de l'écouter.
Parce qu'en fait, on est parti l'année dernière, en expédition, visiter l'Observatoire de Paris et l'Observatoire de Nancy. Télescope de Nancy, et fait, on a eu comme guide Daniel Briot.
Et on lui a tout de suite proposé de faire une conférence. Alors, elle va nous parler justement de cet observatoire de Paris, qui a été un fleuron de, qui était donc lancé par, construit par Louis XIV, puis il a été repris à la Révolution. Il y a Le Verrier, il y a des grands directeurs qui ont, il y a Danjon qui était directeur. Enfin, il y a eu des gens extraordinaires. Et les fameux, la dynastie des Cassini, qui avait, c'est pas ça que ça a commencé. On a découvert la vitesse finie de la lumière. On a mesuré la Terre, on a mesuré la Bretagne. C'est juste pour une anecdote. Quand Louis XIV a vu les résultats de ces astronomes qui lui avaient réduit la taille de la Bretagne et la taille de son territoire d'un cinquième, il a eu ce mot célèbre, je suis bien mal récompensé de la sollicitude que j'ai eue envers mes astronomes. Voilà, pour l'histoire de l'Observatoire de Paris, fabuleuse conclusion à cette 12e semaine de l'astronomie. Vous voyez que depuis 91, ça fait son chemin au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est notre grand partenaire, avec aussi, il y a des séances spéciales au planétarium dans ce cadre-là. Vous pouvez avoir des places gratuites avec le billet à l'une des conférences, etc., etc. Donc venez. Alors il y a très peu de places. On vous rappelle que il faut venir pour les abonnés avant 9h-5 pour qu'on la puisse disposer de vos places, pour pas que les gens pas qu'on refuse des gens bêtement alors que si vous avez décidé de pas venir par exemple. Donc voilà. Hein, mon cher Thierry, une grande semaine qui s'annonce.
Merci Daniel. Donc on vous rappelle les dates importantes, le 19 janvier les ciels de Nantes et après la semaine de l'astronomie du 21 au 25. Tout de suite, nous allons continuer un peu dans l'histoire, mais là on vient un peu en plus loin que l'Observatoire de Paris, on va se partir pour mesurer la circonférence de la Terre. Et c'est Claudie de Quatre Barbes qui s'attelle à la tâche pour nous expliquer que la Terre...
Qui s'y colle, s'y pique.
Pour mesurer la circonférence, il faut déjà qu'on sache qu'elle est ronde, c'est ça?
Exactement.
Pas Claudie.
Non, bah ça va aussi. Dans ce point de vue-là, c'est bon.
C'est pas du tout ce que je voulais dire.
Voilà. Je crois que Daniel m'aime beaucoup. Voilà. Tout à fait. Donc, il n'est pas une occasion. Donc, les Grecs savaient donc que la Terre était ronde. Un peu, peut-être un peu plus que moi, mais pas loin. Et puis, contrairement aux Chinois qui s'imaginaient que la Terre était carrée, et les Égyptiens qui pensaient qu'elle était rectangulaire. C'est important de savoir que la Terre était ronde, parce que ça nous a servi après pour le fameux calcul de la circonférence.
Voilà.
C'est plus simple pour mesurer une circonférence, mesurer un cercle.
C'est plein de bon sens, Thierry.
Voilà. Non, mais donc, il a rappelé, c'est que les Grecs l'ont découvert grâce aux éclipses de Lune. Qu'on voit l'ombre
de la Terre ronde.
Et donc, on l'a déjà expliqué plusieurs fois à l'émission de radio. Et donc, en fait, la Terre est ronde. Et après, le savoir est perdu. Et après, c'est redécouvert beaucoup plus tard, entre guillemets.
Voilà. Donc, c'est Ératosthène qui nous a calculé ça. Il vivait en Alexandrie. C'est un Grec. Et c'était
sauf
en 200...
Alexandrie, c'est quand même au nord de l'Égypte.
Oui, mais... Ouais. Oui,
c'était un Grec qui vivait en Égypte.
Voilà.
C'est ce que je voulais dire.
Oui, oui. Est quand même une ville d'Égypte fondée par un Grec.
Bon. Claudie qui voulait pas qu'on l'interrompe. Voilà. Allez hop.
Bon, mais c'est pas grave. Donc, ce cher Ératosthène vivait en 230 avant Jésus-Christ. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Daniel, à savoir qu'avec de parfois de petits moyens, parce que c'est assez surprenant, le génie là encore pour calculer ça. Donc je vais vous expliquer à peu près ça, j'espère bien. Donc Ératosthène, il remarque qu'Assyène, qui est aujourd'hui à Soin, c'était une ville qui était située dans le sud de l'Égypte, sur le tropique du Cancer, précisément. Il remarque que le soleil éclaire le fond des puits à midi, le jour du solstice d'été. Comme les puits sont très profonds dans ces régions, on sait que le soleil est pile à la verticale de Sienne.
C'est ce qu'ils utilisent aussi pour observer les éclipses dans certains endroits. Mmh. Ils observent en penchant la tête dans le puits. Permet d'éviter d'avoir des problèmes.
C'est comme ça qu'ils éclipsent le soleil avec leur tête.
Avec
en
leur
général,
tête, ouais. Il faut avoir un petit puits dans ce cas-là. Donc là, à Sienne, le solstice d'hiver.
D'été,
bien, Claudie.
je suis, Thierry, c'est bon.
Le soleil est à la verticale d'un puits, en fait.
Voilà. Et Ératosthène, lui, comme il vit à Alexandrie, il remarque que lui, à Alexandrie, à la même période, il y a un obélisque qui projette une ombre. Donc il en conclut que le soleil, il n'est pas à la verticale.
Oui, ce qui est bien.
Ce qui est tout à fait raisonnable. Hein. C'est le bon sens même.
Tout à fait logique.
Tout le monde comprend jusque-là.
Jusque-là, c'est bon, vous suivez ?
Oui.
Donc, à ce moment, il se dit, je vais mesurer l'angle...
de l'obélisque.
Voilà. Ça me donnera, comme ce sont sur un principe de droite parallèle et des angles qui se coupent, ça va me donner l'angle au niveau du centre de la Terre, si on peut dire, et ça va lui permettre de calculer sur le méridien sur lequel se trouvent les deux villes, puisqu'elles sont situées sur le Nil, à peu près sur le même méridien. Ça lui permet de calculer ce que vaut 1 degré d'arc, et après il suffira de multiplier par 360 degrés pour arriver à ça. Donc à la date du 21 juin, il mesure la longueur de l'ombre.
Donc après, avec un petit calcul, tout écolier qui se respecte,
voilà.
Il arrive à un angle.
Une règle de trois, un produit en croix, pour Jean, qui est à la technique, lui, il parle de produit en croix.
Il a raison.
Donc ça donne la génération de personnes qui en parlent maintenant.
La génération des produits en croix.
Voilà.
Donc, nous, c'était encore les règles de trois, mon époque.
Nous, c'était encore les règles de trois, hein, Thierry. Donc voilà. Et par ce produit en croix, ça lui permet de calculer la longueur de la circonférence de la Terre.
C'est tout bête, hein, l'angle que fait l'ombre. Enfin, avec la longueur de l'ombre, il calcule l'angle du sommet de l'obélix, qui est le même que l'angle au centre de la Terre, qui embrasse la distance entre Alexandrie et Sienne. C'est en multipliant l'angle par la circonférence totale, enfin, divisant la circonférence totale par cet angle-là.
Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver la distance Sienne-Alexandrie. Donc là, on va sur notre carte Michelin préférée. Et on prend la distance.
C'est pour ça que Ératosthène, il est arrivé à la conclusion que la Terre mesurait 39 675 km environ. Mais il faut savoir qu'il y avait...
Et actuellement, on l'arrondit à 40 000. Hein.
Voilà, mais bon, ça c'est pareil, ça dépend si on la prend la circonférence, on la prend à l'équateur ou au pôle.
Parce qu'elle est un peu aplatie.
Comme la Terre est un peu aplatie. Et finalement, si on la considère au pôle, il n'était pas très loin de la réalité. Et par contre, l'erreur venait dans l'évaluation de Sienne et entre Sienne et Alexandrie.
Parce qu'ils n'ont pas de compteur kilométrique.
Voilà, apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, l'évaluation était assez amusante, puisqu'il a demandé au caravanier qui faisait la liaison entre Sienne et Alexandrie le temps qu'il mettait à parcourir la distance. Lesquels caravaniers ont dit on met environ une quinzaine de jours. Donc notre Ératosthène a pris son petit papier ou son crayon, je sais pas comment il a fait, ou sa machine à calculer, il a fait le calcul, et qu'un chameau parcourait environ une cinquantaine de kilomètres par jour, je multiplie par 15, je tombe environ sur 800
kilomètres. C'est remarquable qu'il ait trouvé ce résultat aussi précis.
C'est arrivé à tomber sur la circonférence exacte, presque exacte.
Parce qu'en fait, les caravaniers, ils font leur distance, ils se lèvent, entre guillemets, ils commencent quand ils peuvent, le soleil,
Je crois qu'ils devaient être assez précis quand même.
Ouais, je pense qu'il
fallait qu'ils soient à l'heure pour vendre leur truc.
Voilà.
Et c'était un...
Si vous payez les soldes, c'était foutu.
Voilà, plutôt que d'arriver en plein après-midi... Il fallait qu'ils mettent un jour de plus carrément, donc ils comptaient en jour rond leur voyage.
Non, c'est vrai que c'est impressionnant qu'avec, en fait, ils mesuraient la distance que parcourant un chameau en une journée, ce qui peut paraître un peu bizarre à l'époque actuelle de l'informatique, des lasers, etc. Mais c'est vrai qu'on a beau dire, il a quand même trouvé la circonférence de la Terre.
Voilà, donc partant de là, il a fait une petite erreur parce que en fin de compte, la véritable distance était de 729 km.
39 729 à la place de 39 600.
Donc voilà. Et puis il y avait aussi une petite erreur sur le méridien, ils étaient un petit peu décalés.
Voilà,
et
pas exactement
une toute petite erreur aussi sur le calcul de l'angle.
Tout cela est bien expliqué sur un panneau de la Sanne, si un jour vous venez à une de nos expositions.
Oui, c'est peut-être plus évident quand
c'est
on peut
visuel,
faire le schéma.
C'est plus visuel, oui.
Mais en fait, c'est un calcul relativement simple. Et avec des moyens très limités.
On peut le reproduire au square Moisan derrière le planétarium. Je crois qu'ils ont mis ont mis une boule avec.
Et à l'explication.
Ouais, ouais, avec l'explication. Mais l'explication.
Et on trouve ça sur des sites internet aussi. Voilà.
L'explication de Claudie était mieux.
Ah, elle est bien infiniment supérieure à ce que j'ai pu lire sur internet.
Voilà.
Je te remercie, Daniel.
Voilà, c'est pour me rattraper.
Merci Claudie. Tout de suite, nous allons aborder la dernière pause musicale avant la conclusion de l'émission. Et là, c'est une première. C'est pas une pause totalement pause. C'est en direct en plus. C'est Daniel qui va nous lire.
Une pause poétique.
Poétique. À toi, Daniel.
Alors, je vais vous lire une fable de La Fontaine. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Voilà, voilà, il faut que je parle pendant la pause musicale, mon cher Jean, puisque je vais vous lire une fable de La Fontaine qui est tout à fait en rapport avec l'astronomie et qui s'appelle Un animal dans la lune. Alors, juste avant que je vous l'énonce, vous y entendrez des choses qui parlent justement du modèle héliocentrique, c'est-à-dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Il parle justement de ces philosophes, c'est-à-dire de ces scientifiques qui se battent entre eux et qui sont pas tous du même avis. Et enfin, vous y verrez aussi son appréciation très très drôle sur les Anglais.
C'est une fable de La Fontaine.
C'est
à
une
toi,
fable
Daniel.
De La Fontaine. Un animal dans la lune. Pendant qu'un philosophe assure que toujours, par leur sens, les hommes sont dupés, un autre philosophe jure qu'ils ne nous ont jamais trompés. Tous les deux ont raison. Et la philosophie dit vrai quand elle dit que les sens tromperont, tant que sur leur rapport, les hommes jugeront. Mais aussi si l'on rectifie l'image de l'objet sur son éloignement, sur le milieu qui l'environne, sur l'organe et l'instrument, les sens ne tromperont personne. La nature ordonna ces choses sagement, j'en dirai un quelques jours les raisons amplement. J'aperçois le soleil. Quelle en est la figure ? Ici-bas, ce grand corps n'a que 3 pieds de tour. Mais si je le voyais là-haut, dans son séjour, que serait-ce à mes yeux que l'œil de la nature ? Sa distance me fait juger de sa grandeur. Sur l'angle et les côtés, ma main la détermine. L'ignorant le croit plat. J'épaissis sa rondeur. Je le rends immobile et la terre chemine. Bref, je dément mes yeux en toute sa machine. Ce sens ne me nuit point par son illusion. Mon âme, en toute occasion, développe le vrai caché sous l'apparence. Je ne suis point d'intelligence avec mes regards peut-être un peu trop prompts ni mon oreille lente à m'apporter les sons. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. La raison décide en maîtresse. Mes yeux, moyennant ce secours, ne me tromperont jamais en me mentant toujours. Si je crois leur rapport, erreur assez commune, une tête de femme est au corps de la lune. Y peut-elle être ? Non. D'où vient cet objet ? Quelques lieux inégaux font de loin cet effet. La lune nulle part n'a de surface unie, montueuse en des lieux, en d'autres aplanie. L'ombre avec la lumière y peut tracer souvent un homme, un bœuf, un éléphant. Naguère, l'Angleterre y vit chose pareille. La lunette placée, un animal nouveau parut dans cet astre si beau. Et chacun de crier merveille. Il était arrivé là-haut un changement qui présageait sans doute un grand événement. Savait-on si la guerre entre tant de puissances n'en était point l'effet ? Le monarque accourut. Il favorise en roi ses hautes connaissances. Le monstre dans la lune à son tour lui parut. C'était une souris cachée entre les verres. Dans la lunette était source de ces guerres, on en rit. Dans la lunette était la source de ces guerres, on en rit. Peuple heureux, quand pourront les François se donner comme vous, entiers à ces emplois ? Alors je chante la fin parce qu'il y a beaucoup de considérations sur la guerre et puis les derniers vers sont très jolis. Ô peuple trop heureux, quand la paix viendra-t-elle nous rendre comme vous, tout entiers aux beaux-arts ? Et de dire que la science est un beaux-arts, ça c'est plus de La Fontaine, c'est de moi, mais c'est vraiment une magnifique conclusion. Si enfin tout ce que nous voyons s'étaler sous nos yeux de bassesse, de vulgarité et de guerre, si on pouvait enfin se rendre aux beaux-arts, qu'est-ce que le monde serait bien plus beau. Voilà.
Merci Daniel, très bien lu, un beau poème.
C'est de la poésie.
Donc c'est Jean de La Fontaine.
C'est La Fontaine, c'est la fin du livre 7e, c'est dans les fables de La Fontaine, hein, il a écrit, bon, il y a 9 livres je crois, enfin bref, 10, à la fin du livre 7e, ça s'appelle Un animal dans la lune.
Ah c'est, ça c'est génial. C'est vrai qu'on a redécouvrir Jean de La Fontaine pour absolument. Ceux qui ne savent pas quoi s'offrir après Noël. Vous prenez le livre 7e et vous avez une petite fable astronomique.
Il y en a d'autres, je vous en raconterai, mais en d'autres lieux, il y a la femme noyée, il y en a bien d'autres. La veuve, la pauvre veuve, hein, qui tout est pleurée, mais au bout de quelques temps, elle demande à son père, où est donc le mari que vous m'aviez promis ?
Ouais.
Et comme disait Victor Hugo, il tombe en poussière dans nos cœurs, bien, vite, bien plus vite dans nos cœurs que dans la tombe.
Tout à fait. Voyons, on sera un ton poétique. On va essayer de rester dans le même ton. Donc, on va conclure bientôt cette émission. T'as vu ça, en plus, je fais des rimes, moi, en plus. C'est excellent.
Ah ben oui, mais voilà, voilà que quelque chose dans le neurone de Thierry...
vient de s'allumer.
Vient de s'allumer.
Thierry se met à parler. À ce moment, pour conclure la fin de l'émission, de vous rappeler les moments importants. N'oubliez pas les ciels de Nantes qui vont... arriver le 19.
Le samedi 19 janvier.
Et pour 21, continuer à 20h, ensuite.
Au parc du Grand Blottereau, on rappelle tout.
Ouais. 19 janvier, parc du Grand Blottereau, c'est à côté d'un quartier vieux d'Oulon, etc. Vous devriez connaître le parc du Grand Blottereau. C'est un beau parc, vous pouvez y aller. En plus, à cette saison, il n'y a pas de gros monde parce qu'il ne fait pas trop chaud, donc je pense que vous aurez largement de quoi vous balader dans ce parc-là. En plus, il y a une stèle sur laquelle la Société d'astronomie a fait des calculs pour en fait mesurer à quel endroit arrivait le soleil, etc. Parce qu'elle est constellée de plusieurs...
La sculpture de M. Lambert, voilà. Et les calculs réalisés par M. Campion.
Tout à fait. Donc là, nous avons... aller voir la stèle astronomique en plus. Donc, samedi 19 janvier, observation. Pensez à vous munir d'affaires chaudes, chaudes, chaudes. Mettez des couches.
Mettez-en plusieurs couches.
Mettez-en plusieurs couches.
Quel lapsus, mon cher.
Non, mettez des couches. Tu m'as arrêté quand j'ai mettez des couches de vêtements.
Ah pardon, mais non, mais c'était trop drôle.
Oui, tout à fait. Mettre des couches aussi, ça tient chaud aussi. Hein. Mettez des couches de vêtements, n'hésitez pas, parce qu'une observation, quand il fait froid, c'est désagréable.
Ça donne envie de faire pipi.
Ouais, d'accord. On était parti sur un ton poétique et on arrive...
Ça finit en eau de boudin.
Voilà.
Donc après le samedi 19, nous passons à la semaine de l'astronomie.
Du lundi 21 au vendredi 25.
Avec cinq conférences, pensez à prendre le programme.
Voilà, et de venir un peu avant, la date fatidique, puisque en fait, la salle a une capacité limitée. À chaque fois elle est pleine, donc essayez d'arriver de bonne heure pour eux.
Et si vous avez des soucis pour être là à l'heure, pensez que les places sont à vendre à l'avance chez nos partenaires.
Voilà, Optique Chevalier, Forum du Livre.
Optique Chevalier, Forum du Livre, voilà.
Et puis Maison des Étudiants.
Et la Maison des Étudiants, on allait oublier.
Donc allez chercher vos places avant.
Et puis effectivement, on n'a pas cette année, mais on le fera les années prochaines, on va négocier une espèce de partenariat avec les parkings de la ville. Mais le parking Granin n'est pas loin.
Et
plutôt
cher.
Que de tourner pendant une heure pour trouver une place, garez-vous là-bas, quoi. Ça vous coûtera quelques francs, parce que je crois que le soir, quelques francs ou une portion d'euros.
Ça sera 2 euros la soirée.
Voilà. Merci à tous. La prochaine émission, c'est le 4 février. Vous étiez sur Alternante. Vous êtes toujours sur Alternante. Tout de suite, nous laissons la place à Reggae Time qui vont nous parler d'un sujet tout à fait autre, mais c'est l'éclectisme d'Alternante.